Vouloir réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère, c'est comme prendre de l'aspirine quand on a un cancer. Le rêve américain, c'est un cauchemar.
La prouesse, l'exploit, le gain, la réussite, la fortune, la fragilité. Et d'autre part, la robustesse, la solidité, la résistance, la stabilité, la résilience. Voici l'enregistrement d'une conférence d'Olivier Hamant, donnée à Bruxelles pour les 20 ans d'Etopia, le centre d'animation et de recherche en écologie politique. C'était le 24 septembre 2024 à l'ULB. Olivier Hamant est biologiste interdisciplinaire, chercheur à l'Institut national de recherche et auteur d'une centaine d'articles scientifiques et de quelques livres qui s'inspirent du fonctionnement de la nature. Robustesse ou performance, s'inspirer du vivant pour une troisième voie de management.
Je démarre avec ce tableau du douanier Rousseau. J'aime bien le présenter celui-là parce que je trouve que ça peut résumer un petit peu la vision qu'on a du vivant, voilà, un petit peu voilà, foisonnant. Il y a peut-être pas beaucoup trop de couleurs, mais il y a beaucoup de formes différentes, il y a des surprises. Hein. Ça s'appelle le joyeux farceur. Hein. Donc c'est juste pour voilà. Douanier Rousseau, essayer de nous dire quelque chose sur la nature, voilà, un peu imprévisible, comme ça, un peu fantasque. Et puis, donc rapidement, on se rend compte que nous, les humains, on a plutôt transformé ça en quelque chose de très rationnel. En fait, on a plaqué de la performance sur le vivant. Alors, il faut bien que je définisse les termes pour qu'on soit bien d'accord. Donc, quand je parle de performance, je prends la définition du contrôleur de gestion. Performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Donc, quand on est performant, on atteint son objectif avec le moins de moyens possible. Ben donc, quand on a remembré le territoire, quand on a rationalisé le territoire, finalement, on a soumis le territoire à l'injonction de performance. Et donc, assez rapidement, on arrive à cette idée qui a déjà été dite, hein, qu'on vit dans un monde optimisé. Alors, c'est de l'optimisation comprise au sens vraiment ras des pâquerettes du terme, mais c'est celui que je prends qui est l'augmentation de performance. On atteint son objectif encore plus vite et avec encore moins de moyens. Il y a d'autres définitions d'optimisation hein, quand même, hein, mais c'est celle qui est la plus mainstream, on va dire. Hein, que, voilà. Alors du coup, ce monde optimisé, on le voit partout. Hein, là, mes photos habituelles, l'agriculture intensive, l'élevage de poules, hein, voilà, bon, ça c'est de l'optimisation, de la performance à tous les tournants. Les villes, voilà, bon, je prends Bruxelles, tant qu'à faire. Voilà. Donc à tous les tournants, hein, il y a de l'optimisation dans les villes, hein, évidemment. Alors c'est de la performance pour les habitants, pour les voitures, pour tout. Hein. Enfin, c'est vraiment une rationalité de la performance nécessairement positive. Alors, il y a ça d'un côté, et puis de l'autre, il y a aussi ça, c'est-à-dire du burn-out, quoi, hein, pour le dire rapidement. Donc là, en fait, c'est un extrait d'un article du Monde, un certain Robin, 27 ans, qui cherche une béquille chimique pour continuer à travailler, mais en fait, il dit continuer à fonctionner au boulot. Et donc, vous voyez, le mot fonctionner dit bien qu'en fait, il a totalement intégré le fait qu'il n'était qu'une machine dans le système. Quand on dit fonctionner, hein, ça veut dire qu'on s'est réifié, on s'est chosifié. Une chose, ça casse. C'est fragile, donc ça casse. Quand on fonctionne, ça veut dire qu'on a intégré qu'on va se casser. Donc c'est le burn-out, hein, très clairement. Quand on est vivant, on n'est pas fragile, on est vulnérable. Ça veut dire qu'on peut se soigner. Vous voyez, ça se répare, c'est réversible. Là, c'est pas réversible, c'est irréversible. Hein. Quand on casse, on casse. Alors du coup, bon, ça dit que quand même la performance, c'est quand même, enfin le burn-out, hein, c'est le produit de la performance. Hein, ça, quand on est dans la surperformance, voilà, la suroptimisation, on finit par casser. Et puis alors, il y a quand on va aller un cran plus loin, ce qui est déjà pas mal, hein, mais on peut aller plus loin que ça. Et ben en fait, il faut suivre notre gourou à tous, hein, Elon Musk, hein, voilà. Mais il y en a d'autres, hein, Jeff Bezos, Sam Altman. Enfin, ils sont beaucoup dans la Silicon Valley, hein, quand même. Bon, mais il y en a d'autres, hein, Poutine, Modi, tout ça. Enfin, il y en a quand même un certain nombre. En général, enfin, juste pour le dire rapidement, hein, c'est des vieux hommes névrosés, ultra riches et violents. Hein. Quand on fait le tour, c'est à peu près le profil. Alors, du coup, ben Elon Musk, qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut aller sur Mars. Alors, ça, vraiment, c'est absolument génial parce que Mars, c'est une planète morte. Et quand même, juste pour info, hein, si on passait une seconde hein, pour prendre ce projet au sérieux, pour vivre sur une planète morte, ça veut dire qu'il faut quand même trouver le moyen de produire des aliments, hein, quand même. Enfin, c'est le niveau 1 hein, du projet. Alors, le seul truc, c'est qu'on ne sait pas faire de l'agriculture circulaire, c'est-à-dire mettre des plantes dans cet espace-là, que je ferme de façon hermétique, et j'espère que le sol, l'eau, les plantes, là, ça circule, quoi. On ne sait pas faire sur Terre. Alors, c'est très clair qu'on ne pourra pas le faire sur Mars. Hein, et pas dans un siècle, pas dans deux siècles, c'est peut-être impossible. parce que une plante, c'est un écosystème. C'est très complexe. Dans un tout petit volume, ça dérive beaucoup trop vite. Il y a une bactérie, un champignon qui va prendre le dessus, et donc on ne sait pas faire. Ce qui est très étonnant, c'est que l'ESA, l'Agence spatiale européenne, ou la NASA, ne se sont pas posé la question dès le début du projet, en fait. Alors, d'un point de vue philosophique, c'est extraordinaire. C'est le moment où on veut être extraterrestre qu'on se demande comment être terrestre. Bon, c'est de la philo qui coûte très cher, mais c'est quand même de la belle philo, quoi. Donc ça a vraiment, c'est du délire, c'est du délire performant, toxique. En fait, rapidement, je le dis souvent, les projets des ultra performants, ce sont toujours des projets de mort. Elon Musk qui veut aller sur une planète morte, Mark Zuckerberg et d'autres font des bunkers, c'est des tombeaux. MBS fait une ville néum dans le désert de l'Arabie Saoudite, c'est une ville morte. En fait, vous pouvez les lister, les national populistes d'extrême droite qui veulent faire une population homogène génétiquement et culturellement, c'est de la démographie en autodestruction, culturellement et génétiquement. Donc en fait, c'est vraiment que des projets de mort. C'est très facile de débunker le projet des ultra-performants, c'est la mort. Donc là, on a un bel exemple. Alors du coup, moi, ce que je vous propose, c'est plutôt d'atterrir, d'observer un petit peu le monde dans lequel on est. Alors allons-y, voilà. Vous voyez, c'est un monde fluctuant, où il y a il y a des variations, il se passe des choses. Et du coup, je vais vous proposer un chemin en quatre étapes pour habiter le monde différemment, pour dérailler du culte de la performance. Alors, première étape du chemin, elle est indispensable, c'est d'avoir des arguments, voire même d'avoir des armes, pour aller contre le culte de la performance. En fait, on peut considérer qu'actuellement, on est dans une forme de dérive sectaire de la performance. On ne questionne plus la performance, c'est nécessairement positive. Et donc, du coup, il faut trouver des arguments pour entamer la déprise sectaire. Je pèse mes mots, vous allez voir. Alors, du coup, c'est quoi les arguments? Alors, les arguments, le premier argument, deux mots, optimiser, fragilise. Donc, dès que vous optimisez quelque chose, il faut vous demander qu'est-ce que je fragilise. Alors, c'est mon exemple un peu caricatural. Si je veux mettre le maximum de balles de tennis dans un cylindre, je peux couper mes balles en deux. Là, je pourrais mettre beaucoup plus de balles de tennis dans un cylindre. Alors, vous allez me dire, c'est un peu grossier quand même, parce qu'on joue quand même beaucoup moins bien au tennis avec des demi-balles de tennis. Alors, c'est vrai, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est pas exactement ça qu'on fait quand on fait de l'optimisation dans tous nos activités diverses et variées. Alors, si je pose la question, vous voyez que la réponse, ça va être oui. Alors, allons-y. Donc, c'était l'année dernière quand il y a eu des méga-feux. On fait des plantations d'arbres pour optimiser la récolte du bois. Donc ça, c'est bien de la performance. Mais par contre, quand on aligne des arbres comme ça, ce sont des autoroutes pour le feu et ce sont des autoroutes pour les pathogènes. Donc, c'est exactement comme les balles de tennis dans le cylindre. On a optimisé et on a fragilisé tout le reste. Donc on le fait, on fait vraiment exactement la même chose. Donc ça c'est pour la forêt. Alors un autre exemple que j'aime bien, c'est juste un exemple, mais vous voyez le mot, mondialisation, c'est des voitures électriques chinoises qui sont pas trop loin d'ici, qui sont sur le port d'Anvers et qui sont stockées et qui attendent d'inonder le marché européen de la voiture électrique, en étant évidemment 30% moins cher que tout le marché européen. Donc ça, c'est la mondialisation qui est vraiment qui marche très très bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un colosse au pied d'argile, la mondialisation. C'est de l'optimisation, c'est de la performance qui détruit des secteurs économiques. Donc là, c'est l'exemple de ces voitures électriques, mais vous pouvez en prendre vraiment plein d'autres. Je prends souvent l'exemple du canal de Suez qui était bloqué par un bateau. L'été dernier, l'épisode de CrowdStrike, le 19 juillet dernier, là, quand une boîte informatique de cybersécurité se plante, fait une erreur de mise à jour. Donc c'est de la cybersécurité, mais ils ne se rendent pas compte que quand on a un monopole, c'est très fragile. Ben, oui, quand même, le truc, à quel point ça rend aveugle la performance. On va faire des super algorithmes, du coup, on va être le monopole pour Microsoft Windows, mais le jour où on fait une mise à jour défectueuse, évidemment, tous les systèmes Microsoft Windows sont arrêtés. Je pense que vous avez vu ça, ça veut dire que c'est très fragile, Donc dès qu'on optimise, on fragilise. Et puis un petit dernier exemple, c'est plutôt sur l'aspect culturel. Quand on fait des outils algorithmiques numériques extrêmement performants, c'est jamais neutre. Vous savez, l'histoire de la technique, c'est neutre. La technique n'est jamais neutre. Et donc là, ça crée des dérives sectaires, des sous-dérives sectaires, si vous voulez, des bulles d'autoconviction, où en fait on va s'auto-convaincre hein, dans les réseaux sociaux de certaines convictions. Voilà, enfin, là c'est Trump, hein, mais on pourra en trouver d'autres. Hein. C'est de la destruction sociale, hein, très clairement, quoi, grâce à la performance des réseaux sociaux notamment. Bon, le premier point, optimiser, fragiliser. Alors, deuxième point, c'est l'effet rebond. Alors, je reprends mes exemples de frigo. Je pourrais prendre d'autres exemples, hein, mais celui-là, il est pratique parce que tout le monde voit ce que c'est qu'un frigo. Donc, un frigo, dans les années 60, consommait beaucoup d'énergie. Hein, il y avait beaucoup de métaux, ça consommait beaucoup d'énergie. Donc, on a voulu faire des progrès. Donc, on a voulu faire de l'efficience énergétique, hein, avec moins de moyens, efficience énergétique. Et du coup, on a fait des frigos qui sont moins énergivores, mais qui consomment moins de métaux, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils deviennent plus attractifs, et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On les multiplie, on les refait grossir, on fait des frigos connectés, on fait des caves à vin, et c'est parti, en fait. Et du coup, aujourd'hui, la population mondiale de frigos consomme plus de ressources. Et donc ça, c'est vraiment terrible parce que c'est très vicieux. C'est-à-dire qu'en fait, on démarre en se disant on va faire de la sobriété, c'est plutôt positif, quoi. Et en fait, c'est le contraire qui se passe. En fait, on est en train de faire de l'ébriété, sans s'en rendre compte. Hein. Et donc ça, c'est vrai pour les frigos, mais c'est vrai pour tout. Hein. C'est vrai pour le charbon, le pétrole, les avions avec le kérosène, les écrans plats. Hein. Les écrans plats, voilà, c'est un exemple typique. Hein. C'est plus petit, c'est plus léger, etc. Mais tout le monde en a des écrans plats dans nos poches hein, maintenant. Donc, vous voyez, c'est vraiment... il y en a partout. Hein. Les lessives concentrées, le pot familial de ce que vous voulez, ça pousse à la surconsommation. Enfin, voilà, tout ça, c'est des effets rebonds. Alors, il y a des effets rebonds, donc il y en a partout. Hein. Dans un monde qui est drogué à la performance, on adore l'efficience et du coup, on en fait partout, des effets rebonds. Et il y a aussi des effets rebond sur les effets rebonds. Alors là, vous voyez, en voilà un, le surtourisme. Donc là, nous sommes au sommet de l'Everest. Et voilà, donc c'est pas un montage, hein, c'est une vraie photo qui était parue dans le Guardian et qui avait fait le tour. Alors c'est pas tous les jours comme ça quand même, mais ça veut dire qu'en fait, quand on a des avions qui consomment moins de kérosène, hein, ils sont plus écolos, hein, voilà, ils sont plus sobres, hein, ils consomment moins de kérosène, ça multiplie les vols et d'un seul coup, ça fait du surtourisme. Et du coup, ça fait une queue comme au métro de Bruxelles, je suis sûr, à l'heure de pointe, mais au sommet de l'Everest, quoi. Voilà. Bon, ça, c'est la performance qui, quand même, devient très contre-productive. Hein, parce que, vous voyez, l'effet rebond, hein, c'est que ça fait fuir maintenant d'autres personnes parce qu'ils ne veulent pas voir ça. Quoi. Troisième argument, c'est la loi de Goodhart. Alors, la loi de Goodhart, que je cite beaucoup, « Quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. » Donc ça veut dire que dès que vous mettez un indicateur de performance quelque part, ça va devenir toxique. C'est aussi simple que ça. En fait, quand vous mettez un indicateur de performance, en fait, ça cristallise votre vue sur un sujet. Ça réduit votre vision. En fait, c'est un fort appel à une vision réductionniste du monde, pas du tout systémique. Hein. On n'élargit pas le regard, au contraire, on se focalise sur un indicateur. Et du coup, on va tout faire pour augmenter cet indicateur, et du coup, ça va devenir toxique pour tout le reste. Donc, l'exemple typique, hein, c'est les Jeux Olympiques, là, on en sort. Hein, donc, les JO, voilà, on a vibré, etc. Mais en fait, quand on regarde bien, il y a certains sportifs qui se sont vraiment épuisés, au sens littéral du terme, hein, c'est quand... regardez les radios hein, des athlètes, hein, parfois ils ont des os, ils ont 20 ans et ils ont des os de personnes de 60 ans. Ça veut dire que leur vie va être compliquée après, hein, quand même. Hein, donc ils sont tellement forcés sur leur corps que ça fait une belle performance en 2024, mais il y aura des conséquences. Après, si on pousse le bouchon encore plus loin, ça peut être des sportifs qui vont vraiment vouloir avoir la meilleure performance et donc ils vont utiliser une autre béquille chimique qui est le dopage. Et donc là, ils vont s'intoxiquer pour pouvoir atteindre la meilleure performance. Donc en fait, le problème, ce n'est pas le sport. Le sport, c'est super. C'est la compétition. C'est ça le problème. Hein. C'est la compétition. C'est la compétition qui rend le sport toxique. Ouais, ça contamine le sport. Donc en fait, aujourd'hui, depuis 2023, on parle de faire les jeux augmentés. Les jeux augmentés, les Enhanced Games. Donc c'est des jeux où on va autoriser le dopage. Il y a déjà des sportifs qui ont dit oui. Hein. Donc c'est pour dire que vraiment, on y va. Il n'y a pas de limite. Quoi. On veut vraiment voir les sportifs se tuer dans les stades. Hein. C'est vraiment... Donc ça, c'est le culte de la performance. Alors il y en a plein d'autres, hein, évidemment, comme ça, hein, de loi de Goodhart. Hein. Vous pouvez penser à plein de choses. Hein. Le bachotage avant l'examen, on est dans une université. C'est typiquement de la loi de Goodhart. Hein. On va passer l'examen, mais on n'aura rien appris. C'est de la loi de Goodhart. En recherche, hein, nous les chercheurs, là, on a des facteurs H, on publie dans des journaux à facteur d'impact. Tout ça, c'est des indicateurs de performance. Et ça pousse à publier trop trop vite. Donc ça pousse à de la fraude, ça fait de la recherche de plus en plus incrémentale, etc. quoi. Donc en fait, c'est contre-productif. Enfin, on le sait, hein, c'est accès établi scientifiquement. Hein. Je vous renvoie à Park et al. 2023 dans Nature, hein, qui le démontre très bien, par exemple. Donc c'est établi ce truc-là. Bon, voilà, loi de Goddard. Alors, le quatrième argument, en fait, c'est une équation à trois mots. Performance, par-delà. Donc la performance, hein, somme de l'efficacité et de l'efficience, la performance, elle est toujours relative. On est toujours plus ou moins performant qu'un autre, hein, vu que c'est atteindre son objectif avec le moins de moyens possible, c'est relatif. Donc quand on fait de la performance, en fait, on le dit pas souvent, mais c'est le but, c'est de faire de la compétition. Quand on fait l'appel vers la performance, en fait, c'est un appel vers la compétition. Quand on va dans la compétition, il faut se demander qui gagne. Qui gagne dans une compétition, c'est très simple, ce sont les plus violents. Toujours, hein. C'est toujours les plus violents qui gagnent. Alors, c'est une violence qui peut avoir différentes formes, hein. C'est souvent une violence contre les plus défavorisés et aussi contre les écosystèmes. C'est qu'en fait, elle est parfois invisible, hein. Enfin, invisible, ça dépend où on regarde, mais c'est invisible pour nous, quoi. Voilà, quand on ici. Quand on a une batterie au lithium, hein, on ne sait pas forcément qu'il y a des enfants au Congo qui ont prélevé ça, qui se sont intoxiqués, etc. quoi. Enfin, ouais, je passe les détails. Donc du coup, cette violence, alors, je vais faire le focus sur la question socio-écologique, hein, et je dis bien socio-écologique et pas seulement écologique, hein, c'est bien les deux ensemble, complètement liés. Et donc, il y a plein de sujets, hein, mais là, j'en ai mis trois, crise climatique, effondrement de la biodiversité, pollution globale, on pourrait ajouter pénurie de ressources. C'est ça, hein, les sujets qui nous habitent. Et donc ça, c'est le produit du monde performant. Donc on est vraiment dans l'époque de la performance contre-productive. Hein. Donc là, je vous renvoie à Ivan Illich, hein, sur la contre-productivité. On est en plein dedans. Alors bah, du coup, dans ce monde-là, qu'est-ce qu'on fait ? Quelle analyse peut-on apporter ? Alors la première chose à faire, enfin, je vais vous partager deux points saillants, hein, de cette crise socio-écologique. Le premier point, c'est que ce qui domine dans les médias, dans les discussions, hein, au café et ailleurs, c'est le climat. Hein, le climat domine partout, on parle de climat, et à la limite même, on parle surtout de CO2. Alors ça, vraiment, c'est l'exemple typique du monde du culte de la performance. On a réduit toute la complexité socio-écologique à une molécule, CO2, du carbone oxydé. Autant dire que ça, c'est quand même assez dingue de réduire ça à si peu, quoi. Alors, c'est clairement une erreur, hein. C'est clairement une erreur. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on ne corrige pas. Et pire que ça, on va trouver des solutions pour réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Enfin, vous voyez le truc, hein, c'est que le CO2, c'est le symptôme. Ce n'est pas la cause du problème. C'est le symptôme. C'est comme vouloir réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère, c'est comme prendre de l'aspirine quand on a un cancer. Hein. Là, je vous renvoie à Aurélien Barraud, hein, qui en parle très bien. En fait, c'est pas du tout le sujet, quoi. Il y a un problème. Il y a du CO2 dans l'atmosphère. Il y en a trop, hein, ça, on est d'accord. Hein. Mais c'est le symptôme. Ce n'est pas la cause du problème. Donc, du coup, quand on a des solutions et on en trouve, hein, des solutions pour réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère, qu'est-ce qu'on fait ? Par exemple, comme cet été, on a ouvert une usine en Islande de capture directe du CO2. Le truc, mais alors le plus débile qu'on puisse imaginer quand même, hein, c'est que c'est une usine qui va utiliser plein de métaux, plein d'énergie, pour, à partir de l'air atmosphérique, faire un peu de charbon, quoi. Enfin, c'est vraiment débile dans les volumes, quoi. Enfin, ça n'a vraiment aucun sens. Et en plus, c'est une opération purement financière. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des entreprises qui vont pouvoir acheter du quota carbone pour continuer d'émettre du CO2. Donc ça n'a rien à voir avec l'écologie, hein. C'est juste une opération financière qui coûte encore des terres rares, des métaux et tout le bazar, quoi. Donc en fait, quand on apporte des solutions pour réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère, en général, ça aggrave la pénurie de ressources, ça aggrave l'effondrement de la biodiversité et ça aggrave les pollutions globales. Pensez à la batterie au lithium, hein, ça tique à peu près toutes ces cases, quoi. Donc du coup, c'est terrible, parce que non seulement on répond pas à la bonne question, mais en plus on aggrave les problèmes. Donc du coup, je vais quand même vous donner une solution nettement plus joyeuse que ça, si on commençait par l'effondrement de la biodiversité. Et donc, si on prenait soin de la biodiversité, si on multipliait la biodiversité. Alors ça, c'est nettement plus positif, parce que quand on fait ça, c'est positif pour la pénurie de ressources, c'est positif pour le climat et c'est positif pour les pollutions globales. La biodiversité, c'est de très loin le levier le plus systémique pour avoir un impact majeur sur la crise socio-écologique. Il faut commencer par la biodiversité. Il faut bien comprendre que notre performance fait une guerre à la vie sur Terre. C'est ça qui se passe. Et donc ça, c'est la cause. notre performance sur la vie. Donc du coup, si on prend soin de la vie, donc de la biodiversité, hein, qui est un peu le cœur nucléaire de la vie sur Terre, bah là, on est beaucoup plus près des causes, quoi. Alors, ce qui est extraordinaire avec la biodiversité, c'est que ça coûte rien de préserver la biodiversité. Il n'y a pas besoin de construire une usine en Islande. Hein. Vous semez des graines et ça y est, hein, vous avez déjà augmenté la biodiversité. Vous pouvez le faire à n'importe quelle échelle, sur votre balcon, dans un champ, voilà, dans une forêt. Voilà, on peut le faire à peu près n'importe où. Au niveau planétaire, le premier levier pour le faire de façon massive, eh ben, c'est de changer l'agriculture. Alors, une agriculture qui est basée sur de la biodiversité cultivée. Et ce qui est incroyable, c'est que pour donc, ce levier, hein, qui est majeur, hein, l'agriculture, on a toutes les solutions. On les a tout de suite. Permaculture, agroforesterie, agroécologie, jardin créole dans les Caraïbes, enfin, dans tous les territoires, on a une zoologie de solutions, techniques, savoir-faire, tout ça, pour inverser la balance. Alors c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on sait quel est le levier le plus systémique, on a toutes les solutions, et pourtant on fait des usines de capture du CO2 en Islande. Voilà. Bon, ça, c'est un peu frustrant hein, quand même. Mais bon, on va y arriver, hein, donc c'est de très loin la biodiversité d'abord. Deuxième point sur lequel je veux insister, c'est le monde fluctuant, le mot en rouge là-haut. En fait, si vous lisez les rapports du GIEC, de l'IPBES, de l'UICN, ceux de la CIA, de l'OCDE, tous ces rapports, hein, même de l'Union européenne, hein, voilà, tout le monde est d'accord pour dire que le 21e siècle sera fluctuant. On est en train de quitter le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type. C'est ça qui se passe. Hein. Pendant des années, on s'est plutôt focalisé sur les tendances. Et puis là, d'un seul coup, ben, par exemple au Canada, l'été 2021, il a fait 50 degrés. Plus 15 degrés par rapport à ce qui était prévu. Quoi. Les 50 degrés, on les attendait en 2100. Ben, c'est arrivé en 2021. Le Pakistan, 2022, la moitié du pays, c'est devenu une rivière. Ben, ça, c'est le monde fluctuant. C'est-à-dire qu'en fait, des choses qu'on avait prévues en moyenne pour la fin du siècle, ça arrive aujourd'hui. Et ça, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça le monde fluctuant. C'est imprévisible avec des très grandes variations, avec des très grandes intensités, mais soudaines, quoi. Imprévisible, voilà. Et donc c'est ça le sujet. Hein. Donc il y a plein de mots pour le dire. Hein. Donc moi j'utilise le mot fluctuant parce que la fluctuation, c'est le mélange d'une variation et du côté imprévisible. Hein. Donc c'est, voilà, on ne sait pas exactement quand ça arrive, mais c'est une grosse variation. Mais il y a aussi le mot polycrise. Il y a le monde de VUCA aussi. Enfin voilà, il y a tout un. Mais ça dit tout la même chose en fait. Hein. C'est un monde imprévisible avec des fortes variations. Donc du coup, bah, ça c'est le produit de notre performance, hein, ce monde qui se dégrade et qui devient très variable. Qu'est-ce qu'on a imaginé pour y répondre hein? Quelles sont les solutions qu'on a imaginées? Alors c'est là qu'on voit ça en fait. Encore plus de performance. Et oui, bien sûr, puisqu'on est dans un culte de la performance, complètement addict à la performance. Et donc les solutions qu'on met en avant, ce sont des solutions performante. Je vais peut-être en prendre. Alors, j'ai un petit peu parlé de la géo-ingénierie. Enfin, il y a toute une, là aussi, une zoologie de solutions, hein. Pas du tout questionnée par le GIEC, hein, d'ailleurs. Hein. Le groupe 3 du GIEC, là aussi, il va falloir faire du ménage, hein, parce que c'est incroyable. Hein. Enfin, bref, je ferme ma parenthèse, mais il y a du travail à faire, hein, d'acculturation sur ces sujets-là. Je vais prendre l'exemple de l'agriculture de précision. Agriculture de précision, on pourrait se dire, bah, ça, c'est plutôt bien, parce qu'on va utiliser moins de pesticides, moins d'engrais. Hein. On utilise des drones, du numérique, pour mettre exactement la dose qu'il faut d'engrais, de pesticides dans le champ, quoi. Et donc, on va utiliser moins de pesticides, moins d'engrais. Alors oui, efficience, hein. Alors attention, alerte, tac, ça y est, performance, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi c'est un problème? Ben, faut juste réfléchir. Si vous mettez de l'agriculture de précision quelque part, quel est l'objectif? Quel est le pourquoi de l'agriculture de précision? Eh ben, c'est pour rendre les champs homogènes. C'est ça, hein, finalement, pour qu'on mette que des petites doses. Pourquoi on veut rendre les champs homogènes? Eh ben, pour faire de la monoculture. Donc en fait, quand on fait de l'agriculture de précision, on soutient la monoculture. Et donc, en fait, ça n'a absolument aucun intérêt dans le monde qui vient. Si on est d'accord pour dire que c'est la biodiversité cultivée qui peut nous apporter des solutions, ça va contre la biodiversité cultivée. Et en plus, ça ajoute une aliénation supplémentaire pour les paysans qui sont déjà très dépendants de tas d'industries. Ben, on va rajouter le numérique hein, et les drones. Ah ben, alors, vraiment, chapeau, quoi. Ça, c'est super robuste hein, comme système. Bon, bref, donc il y en a plein d'exemples comme ça. Les ampoules basse consommation, il y a du mercure hein, dedans. Bon, voilà, super, on réduit la consommation, mais on diffuse du mercure dans les foyers. Bon, enfin, faut voir. Alors, du coup, on va dérailler, hein, on va dérailler avec Einstein qui dit, enfin, c'est toujours difficile de savoir exactement ce qu'il a dit, mais il aurait dit, on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée que celle qu'il a créée. Bon, bah, ça veut dire qu'on est un peu en roue libre sur la performance, ça crée de nombreux problèmes. Il y a peu de chances que la performance apporte aussi la solution. Voilà. C'est aussi bête que ça. Ce serait quand même assez incroyable que le problème soit aussi la solution. Donc on va revenir, on va prendre un peu de recul. Hein. Si on prend au sérieux les rapports scientifiques, Et moi, je suis bêtement scientifique, donc qu'est-ce que nous disent les scientifiques? Ils nous disent que le 21e siècle sera fluctuant. Au premier ordre, c'est ça qu'il faut retenir de tous les rapports scientifiques sur la question socio-écologique. Au premier ordre, c'est ça. Ça va tanguer de plus en plus fort. Donc, c'est ça la question qu'il faut se poser. La première question à se poser, c'est comment habiter un monde qui est de plus en plus fluctuant? Alors, c'est une très grande question, mais il se trouve que la réponse, on l'a sous les yeux. Ou en tout cas, des réponses, on les a sous les yeux. Les êtres vivants, ça fait des millions d'années qu'ils vivent dans un monde fluctuant. Donc peut-être qu'il y a des leçons, des recettes, des lois, des principes à creuser, à explorer dans le monde du vivant. Comment font les êtres vivants pour vivre dans un monde fluctuant? Comment ont-ils fait pour traverser des millions d'années de fluctuations? C'est quoi le secret? Et bien donc c'est la deuxième étape, les nouveaux récits du vivant. Alors, je dis bien les nouveaux récits du vivant parce que nous les biologistes, comme tout le monde, on s'est fait avoir par la performance. Quand je dis on s'est fait avoir, on a été aussi des acteurs très motivés pour aller dans la performance. On parlait du biomimétisme juste avant dans le couloir. Dans le biomimétisme, pendant des années, on a voulu copier des moments de performance du vivant. Je vais vous prendre un exemple, la crevette pistolet. La crevette pistolet, c'est une crevette qui a deux pinces, mais une très très grosse pince qui fait la moitié de la taille de son corps et qui peut claquer comme ça très rapidement, mais à une vitesse qui défie l'entendement. Et ça claque tellement vite que ça fait énormément de décibels, énorme, et ça chauffe l'eau à 4000 degrés. Donc c'est un truc absolument incroyable, c'est un coup de pince, mais alors quel coup de pince, quoi. Et donc avec ça, la crevette pistolet, c'est vraiment un pistolet, elle tue ses proies, quoi. Parce que là, vous imaginez le choc, quoi. Alors là, quand on fait du biomimétisme en version performante, on va se dire, là on a de la performance, on va pouvoir faire limite un plasma avec des pinces bio-inspirées, je sais pas ce qu'on pourrait imaginer, quoi. Ça, c'est pas du biomimétisme, ça c'est du technomimétisme. C'est-à-dire qu'on plaque de la technique sur le vivant. En fait, on a isolé une toute petite partie du vivant qui est performante et on a dit que ça, c'était inspiré du vivant. Alors, il faut tout de suite rectifier le tir. Si vous voyez une crevette pistolet, alors c'est vrai que je n'ai pas la photo là, mais si vous voyez une crevette pistolet, que vous voyez la taille de la pince, alors la pince, elle est vraiment très, très performante, mais la crevette, il faut qu'elle se trimballe cette pince toute sa vie, qui fait la moitié de son corps. Enfin, imaginez que votre main fasse la moitié de votre corps. Je peux vous dire, c'est encombrant. Bon, donc ça, voilà. Là, on se dit, il y a eu une petite erreur d'aiguillage dans la biologie. Alors, il y a eu un autre exemple, c'est les documentaires animaliers dans les années 80, notamment. Alors, on a fait vraiment dans le délire du film d'horreur. C'est-à-dire qu'en fait, les documentaires animaliers, c'était vraiment sanguinolent, quoi. C'était vraiment le focus, c'était sur la lionne qui se chope sa gazelle ou son hippopotame, quoi. Bon, ça, c'était le moment de performance, quoi. Et en fait, on en faisait un peu le symbole du vivant, une compétition, le monde vivant, vraiment, c'est très fatigant la biologie, parce qu'il faut retenir des tas de noms, et puis après, quand on a retenu les noms, après, ils se tuent entre eux, donc c'est vraiment, c'est la catastrophe, quoi. Donc en fait, heureusement, c'est pour ça que je parle de nouveaux récits du vivant, parce que aujourd'hui, maintenant qu'on a des approches systémiques du vivant, donc on analyse les interactions entre les êtres vivants, qu'est-ce qu'on trouve? Que ce qui domine dans les écosystèmes, c'est pas la compétition, c'est la coopération. Et maintenant, on a des données pour vraiment le démontrer. Donc, par exemple, dans l'océan, qui est un milieu très pauvre en ressources, les êtres vivants coopèrent. Et en fait, c'est presque du bon sens. S'il y a peu de ressources, la dernière chose que vous voulez faire, c'est de la compétition. Forcément, on s'entraide. On se serre les coudes dans les moments difficiles, pour le dire comme ça, de façon un peu triviale, quoi. Maintenant, on peut le démontrer, quoi. D'ailleurs, c'est aussi assez intéressant. Si vous lisez Darwin, à qui on a fait dire beaucoup de choses. Alors vraiment, je vous invite à lire Darwin dans le texte. Darwin, c'était un anti-esclavagiste, un anti-colonialiste. Enfin, c'était quelqu'un qui avait vraiment une vision sociale des choses et qui s'étonnait beaucoup de ce qu'il voyait en biologie, quoi. Et notamment, on a beaucoup dit survie du plus fort, du plus adapté. Chez Darwin, on a réduit la sélection du plus fort. Alors déjà, Darwin, il ne voulait pas utiliser le mot sélection, il voulait utiliser le mot préservation. Ah oui, ça a quand même rien à voir entre sélection et préservation. Enfin, c'est notre optique. Et puis aussi, quand on lit vraiment l'origine des espèces, on se rend compte qu'il était très intéressé par les organes rudimentaires. Les organes rudimentaires, c'est ce qui ne sert à rien. Donc, pour un être humain, c'est le dernier orteil, les dents de sagesse, l'appendice. Enfin bon, on a un paquet de trucs qu'on trimballe tous les jours qui ne servent à rien. Enfin, un biologiste vous dira, ça ne sert à rien. Mais Pour Darwin, c'était le laboratoire de l'évolution. C'est qu'en fait, des organes qui servent à rien, ils vont pouvoir dériver. Et un jour, peut-être qu'ils seront utiles à autre chose, quoi. Donc c'est, voilà, c'est de la recherche fondamentale, si vous voulez. Ça sert à rien, mais un jour, ça sera peut-être utile, quoi. Voilà. Donc ça, Darwin, il a beaucoup écrit là-dessus, quoi. Et alors, dans la filiation de l'homme, hein, donc ça, c'était 1859, l'origine des espèces. Dans la filiation de l'homme, 1871. Donc c'est là, hein, qu'il dit un peu plus, de façon échafaudée, que les humains descendent du singe, hein, pour le dire rapidement. Mais il y a le mot sympathie qui est écrit 70 fois dans ce texte. Parce que dans ce texte, Darwin insiste sur le fait qu'un être humain, c'est surtout un être social qui fait de la coopération. Et il dit bien sympathie, hein. En plus c'est le bon mot, hein. C'est pas de l'empathie, c'est de la sympathie. C'est que l'empathie, on prend la place de quelqu'un d'autre, la sympathie, c'est on communique, hein, et chacun est à sa place. Donc en fait, il est très très loin de la caricature qu'on a voulu lui plaquer dessus, quoi. En fait, on a confondu Darwin et Spencer, hein. Enfin, si vous connaissez un petit peu l'histoire, Spencer, lui, il a carrément dérivé vers... Et puis après, Galton sur l'eugénisme, etc. Bah, voilà. Donc, revenez à Darwin, hein. Et même les premières éditions d'Origine des espèces, hein, avant que lui-même se fasse un tout petit peu contaminé quand même, voilà, c'est beaucoup plus rafraîchissant, quoi. OK, alors, faut pas que je sois trop long. Donc là, c'est la coopération. Et alors, donc, si on va vraiment au cœur du vivant, donc maintenant qu'on fait une analyse systémique du vivant, à toutes les échelles, hein, réseau de neurones, réseau moléculaire, réseau de gènes, tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, on trouve ça. Donc là, c'est ma diapo que j'utilise vraiment très fréquemment, mais vraiment, je m'attraque, hein, parce qu'il faut que ça rentre. Donc, si on doit aller au cœur nucléaire du vivant, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, en fait, on trouve que les êtres vivants sont sélectionnés au cours de l'évolution sur leur capacité à être robustes. C'est la robustesse qui est sélectionnée au cours de l'évolution. Au premier ordre, les êtres vivants sont d'abord robuste. Alors la robustesse, hein, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Maintenir le système stable malgré les fluctuations. Donc ça c'est à court terme, et à plus long terme, c'est maintenir le système viable malgré les fluctuations. Donc, ça veut dire qu'à l'instant T, on est stable, mais ça n'empêche pas qu'on puisse changer, quoi, sur le temps plus long, quoi. Donc on a gardé assez de marge de manœuvre, hein, pour le dire autrement, quoi. Donc ça c'est ça, les êtres vivants sont robustes. Et comment font-ils pour être robustes ? Alors c'est là que c'est quand même très rafraîchissant. Les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Et là, on a un contre-modèle. C'est plus du tout cosmétique, quoi. Hein. C'est pas les êtres vivants, c'est formidable. Alors nous, on est très performants, mais on va s'inspirer des êtres vivants pour ajouter de la robustesse. Non, en fait, c'est incompatible. Plus on est robuste, moins on est performant. Plus on est performant, moins on est robuste. C'est ça que nous disent les êtres vivants. Alors, et ce qui est très chouette, à vrai dire, c'est que là, en 2024, maintenant, on a vraiment énormément de données biologiques pour le démontrer. C'est-à-dire que le vivant est devenu un récit incarné du compromis entre robustesse et performance. Et donc là, vous avez le programme politique du vivant. Alors, allons-y. Donc, inefficacité, pas d'objectif. Voilà, l'évolution darwinienne est aveugle. Hein. Regardez la trajectoire d'une mouche. Manifestement, il n'y a pas d'objectif. Hétérogénéité, c'est très hétérogène, voilà, la biodiversité, hein, c'est extrêmement hétérogène. Incertitude, beaucoup de processus qui sont aléatoires, pensez au brassage des chromosomes pendant la reproduction sexuée, pensez à l'immunité, par exemple, hein, les anticorps, tout ça, ça se fait de façon très, très, très aléatoire. Donc il y a énormément de processus qui sont aléatoires, qui dépendent du pur hasard. Ça s'appelle même la biologie stochastique, hein, c'est pour dire qu'il y en a vraiment énormément, partout, quoi. Beaucoup de lenteur, beaucoup de délais. Alors, il faut penser au cycle du vivant, cycle cellulaire, cycle menstruel, cycle circadien. Donc, tous ces cycles, hein, c'est des oscillations. Alors, les oscillations, hein, vous pouvez, si vous avez une douche avec 100 mitigeurs, hein, donc vraiment avec voilà, un peu à l'ancienne, quoi, chaud-froid, s'il y a un petit délai, vous allez voir, votre température ne va pas arrêter d'osciller, quoi. Donc, par contre, si vous le faites assez rapidement, là, ça va devenir tiède. Et ben, en fait, ça permet d'illustrer ça, quoi. Et qu'en fait, les délais, dans les oscillations, ça permet de maintenir des oscillations dans la durée. Si vous réduisez les délais, en fait, ça amortit les oscillations et ben voilà, c'est mort, quoi. C'est plat, quoi. Donc, en fait, tant qu'on est vivant, on continue à osciller. Beaucoup de redondance. Pensez, un arbre, le nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre. Pensez au nombre de globules rouges que vous avez dans le sang, le nombre d'alvéoles pulmonaires que vous avez dans les poumons. Voilà, nous sommes des êtres extrêmement redondants. Pensez que dans une bactérie, au nombre de molécules identiques qu'il y a, quoi. Voilà, nous sommes tous et toutes des êtres extrêmement redondants. Beaucoup d'incohérences, beaucoup de contradictions internes. Donc ça, c'est. Il y a beaucoup d'exemples en biologie. Je pense que j'en prendrai peut-être un autre après. Les incohérences, c'est ce qui permet au système d'être en contradiction interne et donc de jamais se rigidifier. L'exemple typique d'un système cohérent dans le monde social, c'est la secte, justement. Une secte, c'est très, très, très cohérent. Tout le monde sait ce que tout le monde pense. Tout le monde est d'accord avec le gourou. Il n'y a pas besoin de communiquer parce que de toute façon, tout le monde est d'accord. Et donc, en fait, le destin d'une secte, c'est de casser, pour le coup. C'est tellement rigide que ça casse. Donc, pour ne pas être rigide, il faut bien qu'il y ait des incohérences dans le système pour que ce soit un peu souple, quoi. Le roseau, par exemple, dans le vent, voilà, c'est robuste, parce qu'il y a des incohérences mécaniques dedans, quoi. Donc, il y a des incohérences à tous les tournants dans le monde vivant. Même maintenant, alors, d'un point de vue systémique, on appelle ça des incoherent feed-forward loops, donc des boucles incohérentes dans les réseaux de gènes, dans les réseaux de neurones, etc. Et on voit très bien que ça permet de l'autonomie. En fait, c'est des protections. Le meilleur bouclier contre les fluctuations extérieures, ce sont les fluctuations intérieures. Et elles sont auto-générées par des contradictions internes. Bon, je vous redis un peu la même chose, mais à chaque fois, c'est des contre-performances qui ajoutent du jeu dans les rouages. Et le dernier point, c'est l'inachèvement, parce qu'en fait, les êtres vivants sont inachevés, parce que quand ils sont achevés, ils sont morts. Voilà. Donc en fait, tant que vous êtes vivant, vous êtes inachevé. Mais vous savez que vos cellules se régénèrent en permanence, donc vos cellules sont bien plus jeunes que vous. Nous sommes des rivières de cellules, c'est un flux, quoi. Voilà. C'est ça le vivant, donc c'est inachevé. Donc en fait, vous voyez, c'est que des contre-performances, très clairement. Là, c'est pas du tout efficace ni efficient. En fait, si je vous le dis différemment, il n'y a pas d'objectif chez les êtres vivants, et en plus, le vivant gâche énormément de ressources pour faire tout ça, là. La redondance, tout ça, ça consomme énormément de ressources. Donc en fait, il faut vraiment arrêter avec cette idée du vivant qui est sobre et économe, C'est totalement faux. Le vivant gâche énormément de ressources. Alors, on peut appeler ça du don, parce que finalement, ce gâchis de ressources va nourrir d'autres membres de l'écosystème, quoi. Mais individuellement, c'est un gâchis. Ça, il n'y a pas à boiter. Alors, j'ai mon petit exemple caricatural que j'utilise souvent. C'est celui de la température corporelle, mais qui permet, à mon avis, de bien l'incarner, parce que ça nous concerne toutes et tous. Donc, quand on est à 37 degrés, on a l'impression d'être plutôt bien, quoi. Et puis, quand il y a un virus ou une bactérie qui rentre, on peut monter en température, c'est la fièvre, 38, 39, 40 degrés. Si j'isole les enzymes de votre corps et que je mesure leur activité, ce que je vais trouver, c'est que leur optimum d'activité, en général, n'est pas à 37 degrés, en général, il est à 40 degrés. Donc ça veut dire qu'à 37 degrés, votre corps fonctionne de façon satisfaisante. Good enough. J'aurais envie de dire robust enough. C'est-à-dire qu'à 37 degrés, en fait, vous êtes, ça marche, quoi, mais c'est pas, c'est le mode dégradé, quoi, c'est ce qu'on pourrait dire. Voilà, donc en fait, à 37 degrés, ça marche, mais bon, c'est pas top, quoi. Voilà. Par contre, à 40 degrés, alors là, c'est le top. Là, ça veut dire que votre métabolisme, il est vraiment à fond. Là, c'est vraiment, ça tourne. Et donc, alors, c'est pas très intuitif, parce qu'en général, on est un peu claqué quand on est à 40 degrés. Mais votre métabolisme, et surtout votre système immunitaire, c'est là qu'il est très performant. Donc, vous voyez le truc, en fait, c'est tout simple. À 37 degrés, on n'est pas très performant, mais on a gardé des marges de manœuvre, au cas où il y a une fluctuation. S'il y a une fluctuation, c'est par exemple un pathogène qui rentre, là, on va augmenter les performances, mais par contre, 3 jours, pas plus. Parce qu'après, on fait un burn-out moléculaire, les protéines se dénaturent, quoi. À force de tourner à fond, elles se fatiguent, c'est vraiment, c'est la performance qui fatigue aussi les enzymes. Et donc, on ne reste pas à 40 degrés, après, on revient à 37 degrés, quoi. C'est ça le vivant en fait, on joue avec les fluctuations. Être vivant, c'est se construire sur les fluctuations. C'est pas éviter les fluctuations, c'est se construire dessus. Et donc on construit sa robustesse en vivant avec les fluctuations. Alors je vais vous donner un autre exemple qui est plus générique, mais c'est sur les incohérences que ça va me servir après sur les organisations. Les incohérences, en fait, on peut le représenter comme ça. A induit B qui inhibe C et A qui induit C. Ça, c'est la façon la plus simple de représenter graphiquement une incohérence. C'est qu'en fait, là, A induit et réprime C. Donc en fait, quand il y a beaucoup de A, on ne sait pas très bien ce qui se passe pour C, en fait. Il peut y en avoir beaucoup comme il peut y en avoir pas beaucoup, parce qu'il y a une contradiction, là. Vous voyez, ça active et ça inhibe la même chose. Et bien ça, ce genre de petite boucle, là, dans les réseaux de gènes, il y en a partout. Mais vraiment, il y en a des millions. hein, dans les réseaux de gènes, c'est partout, dans les réseaux moléculaires, dans les réseaux métaboliques, c'est partout, et c'est très bien documenté. C'est que maintenant, on a vraiment l'analyse systémique, donc on sait que ça, c'est vraiment partout. Si vous voulez aller à une échelle plus grande, pensez à une plante, hein. Moi je suis végétaliste, alors, du coup je prends des exemples plutôt chez les plantes. Une plante, ça pousse en freinant. C'est-à-dire qu'en fait, une plante, ça pompe de l'eau, donc ça se gonfle, comme un ballon, mais qui serait avec de la pression hydraulique, donc c'est de l'eau qui rentre, donc c'est gonflé. Plus c'est gonflé, plus ça pousse. Plus ça pousse, plus ça fait de la photosynthèse, hein, c'est exposé au soleil. Donc quand ça fait de la photosynthèse, eh ben, ça synthétise de la cellulose. La cellulose, c'est aussi rigide que l'acier. Donc ça veut dire que plus une plante pousse, plus elle se rigidifie, plus elle accumule des molécules rigides. Et donc en fait, ce qui fait que... Donc en fait, vous voyez, une plante, elle pousse, plus elle pousse vite et plus elle freine. Et bien ça, en fait, ça va, c'est exactement ça, c'est une boucle incohérente. Ben ça va lui donner des capacités d'adaptation dans un milieu fluctuant. En fait, elle a le pied sur le frein et l'accélérateur en même temps. Ben ça lui permet de... Alors faites pas ça quand vous conduisez, hein, mais une plante, elle fait ça, elle, quand elle conduit sa conscience, en fait, c'est tout le temps un peu, voilà, un peu fluctuant à l'intérieur. Alors pourquoi ça marche si bien, ça? Ben en fait, quand on réfléchit bien, ce système-là, là, d'incohérence, en fait, c'est un amortisseur. Là, vous avez une analogie mécanique. Alors, je ne sais pas s'il y a des physiciens dans l'audience, mais là, vous avez un ressort. Alors, le ressort, hein, le but, c'est que ça revienne le plus rapidement possible à l'état initial. Et puis, le piston, c'est pour ralentir le retour à l'état initial. Donc, c'est deux fonctions contradictoires. Et bien ça, quand on fait des systèmes comme ça, ça, c'est ce qu'on appelle un amortisseur. Hein, les amortisseurs de vos voitures, ça fonctionne comme ça. Donc là, pour le coup, là, on va amortir. C'est qu'en fait, s'il y a une grosse fluctuation, ça va partir en oscillation et ça va revenir à l'état initial. Donc toutes ces incohérences qu'on voit dans les réseaux moléculaires, ce sont des amortisseurs. Et donc ça rend le système autonome, ça permet de gérer des fluctuations extérieures. Voilà, et donc si je vais jusqu'au bout, la robustesse évidemment, c'est la durabilité. La durabilité, hein, finalement, c'est un mot qui veut rien dire, hein, quand on réfléchit bien. La durabilité, la capacité à durer, bon bah super, mais comment on fait quoi? Bah, la façon opérationnelle de faire de la durabilité, c'est de faire de la robustesse, quoi. C'est aussi simple que ça, quoi. Et donc, vous voyez, là, vous avez la recette, hein, incohérence, amortisseur, robustesse, durabilité, quoi. Donc, vous voyez, il faut bien aller jusqu'au bout. C'est par une contre-performance qu'on génère de la durabilité, via la robustesse. Alors, du coup, bon, ça, c'est ce que nous apprend la biologie. Vous voyez, avec des approches systémiques, bah, c'est quand même nettement plus rafraîchissant, hein, c'est autre chose, quoi. Si je vous le dis différemment, hein, les êtres vivants ne renforcent pas leurs points forts, ils se construisent sur leurs points faibles. Ils valorisent leurs points faibles. Si je vous le dis différemment encore, les êtres vivants ne sont pas parfaitement adaptés, ils sont d'abord adaptables. Voilà. Quand on est très adapté, hein, ça veut dire qu'on s'est enferré dans une voie étroite. Hein. Quand on est adaptable, ça veut dire qu'on a diversifié et qu'on va explorer. Quoi. Ok, alors du coup, si vous voyez très nettement que là, il y a des échos, hein, pour la société, donc alors allons-y, et ben, en fait, ça permet tout ça, ça nous permet de redéfinir ce que c'est que le progrès. Le progrès, hein, qui est un peu un gros mot, mais on comprend pourquoi c'est un gros mot, parce qu'en fait, on s'est fait avoir. Hein, le progrès, en fait, on l'a réduit à des augmentations de performance. En gros, ça fait 10 000 ans, hein, depuis le néolithique, depuis qu'on a inventé l'agriculture, qu'on a voulu sécuriser les prises alimentaires et qu'on a voulu contrôler la nature. Et on a augmenté la performance de nos aliments, hein, j'ai envie de dire. On a fait grossir les tomates, tout ça, la domestication, c'est de la performance. Hein. Alors, c'était très lent au départ, hein, dans le néolithique. La révolution industrielle, c'est là où les machines sont arrivées, quoi, hein, de façon massive. C'est là où l'économie était là pour gérer les machines. Et donc là, on a plutôt accéléré ce progrès guidé par la performance, la machine étant l'élément à qui on demandait de la performance. Et depuis les années 50, c'est là qu'on a accès au pétrole, au numérique, etc. Où là, ça s'est vraiment amplifié. D'ailleurs, ça s'appelle la grande accélération depuis 1950. Donc c'est plutôt une courbe comme ça en exponentielle. Et donc en fait, on est dans ce moment-là où en fait, plus on augmente les performances et plus c'est contre-productif. C'est qu'en fait, plus on augmente les performances et plus on dégrade notre habitat terrestre. Donc on scie la fameuse branche sur laquelle on est assis. Donc du coup, le futur du progrès, hein, ce ne sera pas des gains de performance. C'est physiquement impossible. C'est impossible. Dans un monde qui devient fluctuant, c'est suicidaire en fait. Hein. Donc ce ne sera pas ça le futur du progrès. Parce que la performance, hein, encore une fois, c'est s'enferrer dans une voie étroite. Dans un monde qui change tout le temps, ça n'a aucun sens. Donc le futur du progrès, c'est tout simple, il faut changer d'axe. Voilà. Le futur du progrès, ce sera des gains de robustesse. Et on n'aura pas le choix. Le monde va devenir de plus en plus fluctuant, donc on va devoir être de plus en plus robuste. La robustesse, c'est la réponse opérationnelle au monde fluctuant. Alors après, il y a toute une zoologie de solutions derrière la robustesse, mais c'est le premier mot qu'il faut mettre en face du monde fluctuant, la robustesse. Et donc, vous voyez, c'est sur deux axes, parce qu'on ne peut pas être très robuste et très performant. Ça s'oppose. Quand on est très performant, on s'est enferré dans une voie très étroite. Quand on est très robuste, on a diversifié, donc on a plein de chemins de traverse. C'est le contraire. Alors ça peut paraître quand même un peu utopique, hein, de se dire que comme ça, on va réussir à basculer, d'arriver à la fin du néolithique, hein, quand même. Hein. C'est pas rien, hein, c'est que 10 000 ans de performance, et là, d'un seul coup, on basculerait vers la robustesse. Est-ce que c'est crédible, quoi ? Alors j'ai ma petite analogie, là, que j'aime bien utiliser sur les nuées d'oiseaux. Les nuées d'oiseaux, ça permet d'illustrer un peu simplement comment un système bascule. Et de façon un peu majeure. Hein. Donc les nuées d'oiseaux, hein, c'est très beau, ouais, les nuées des tourneaux comme ça. Là. Et on peut se demander, mais comment font-ils pour, de façon coordonnée, changer de trajectoire ? Comment ils passent de la droite à la gauche, quoi, par exemple ? C'est très simple. Ce sont toujours les oiseaux à la périphérie qui guident le groupe. Parce que les oiseaux à la périphérie du groupe, ce sont eux qui sont exposés aux fluctuations du monde. Les oiseaux au cœur de la nuée sont aveugles au monde. Ils ne voient que les oiseaux voisins. Et donc ça veut dire que les systèmes, la nuée d'oiseaux, là, elle bascule par la marge. C'est la marge, hein, qui fait basculer tout le réseau des oiseaux. Donc ça, c'est vrai pour une nuée d'oiseaux, c'est vrai pour des bancs de poissons, c'est vrai pour les empires, donc c'est vrai pour les systèmes sociaux aussi. Tous les systèmes basculent par les marges. C'est toujours aux interstices que ça se passe. Vous savez, c'est l'indisciplinarité. Hein. C'est les deux disciplines, les interstices, c'est là que ça fait changer les choses. Quoi. Voilà, c'est ça aussi en science, c'est comme ça. C'est la phrase de Jean-Luc Godard, hein, que je n'ai pas mis là, mais Jean-Luc Godard, il dit « c'est la marge qui tient la page ». C'est la marge qui tient la page. Très puissant. Alors du coup, on va s'inspirer. Voilà, c'est voir qu'est-ce qui se passe aux marges. Qu'est-ce qui se passe aux marges ? Alors c'est extraordinaire, parce qu'en fait, aux marges, on a déjà basculé vers la robustesse. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les ultra-performants sont extrêmement vocaux, sont extrêmement visibles dans les médias et ailleurs. On les entend extrêmement, enfin tout le temps. Mais dessous, il y a les robustes qui ne font pas beaucoup de bruit, mais qui n'arrêtent pas d'augmenter. Vous savez cette phrase, hein, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Ben, on est exactement dans ce moment-là. Hein. On entend beaucoup les arbres tomber, hein, mais la forêt, elle pousse. Alors, allons revoir la forêt. Alors la forêt, l'agriculture, ce qu'on voit décoller, hein, c'est l'agroécologie. Donc là aussi, il ne faut pas se faire avoir avec le discours des fois un petit peu médiatique qui dit la crise du bio, etc. Ça, c'est une crise transitoire, mais sur les 10-20 ans derniers, c'est l'explosion, hein, de l'agroécologie. Hein. On n'en a jamais tant fait, en fait. Hein. Donc en fait, on est en train de basculer de l'agriculture intensive à l'agroécologie. L'agriculture intensive est toujours dominante, mais ça se réduit. L'agroécologie est en train de monter très fort. En fait, si vous êtes un jeune ou une jeune paysanne, et que vous arrivez sur une parcelle qui donc n'est pas très grande, vous n'avez plus aujourd'hui les moyens de faire de l'agriculture intensive. C'est impossible. Ça ne marche que si vous avez déjà une énorme propriété, que vous avez remboursé une partie de vos dettes, que vous avez un deal pour avoir de l'eau pas trop chère, du pétrole pas trop cher, enfin tout ça quoi. Bon bah un jeune paysan, une jeune paysanne qui démarre, c'est impossible. Donc en fait ce qu'ils font, ils sont aux marges et donc ils font directement de l'agroécologie quoi. Et en plus, s'ils sont dans des territoires où il y a déjà eu des fluctuations très fortes, hein, des grosses inondations, des grosses sécheresses, raison de plus pour faire de l'agroécologie, parce que c'est grâce à la biodiversité cultivée qu'on va rendre la parcelle plus autonome, plus robuste face aux fluctuations. L'agriculture intensive, hein, c'est le contraire, hein, c'est on fuit les fluctuations, on évite les fluctuations. Parce qu'on utilise beaucoup de pétrole pour mettre de l'irrigation, des engrais, des pesticides. Et avec ça, en fait, on fait de l'agriculture extraterrestre, sans fluctuations, mais qui coûte énormément en pétrole, en pollution diverses et variées, en suicide de paysans, enfin, c'est très polymorphe, hein, comme toxicité. Et du coup, en fait, on est en train de basculer, quoi. Donc, dans l'agriculture intensive, on exploitait les écosystèmes pour augmenter la production. Et dans le monde de la robustesse, on fait l'inverse. On se demande comment la production peut nourrir les écosystèmes. Quand je dis « on », hein, c'est les paysans. Un paysan qui fait de l'agroécologie, il ne fait pas que du rendement en grains, il fait aussi de l'hygrométrie de ses sols, il maintient des insectes auxiliaires, s'il fait des mélanges de variétés ou d'écocultures, il va mélanger ses mélanges variétaux avec ses voisins paysans. C'est tout un ensemble de choses, quoi. C'est le monde de la richesse des interactions. Le monde de la performance, hein, c'est le monde de l'autoroute. On va très vite et on rencontre personne, quoi. très pauvre en interaction. Hein. Ça fait vraiment pas rêver, hein, le monde de la performance. Mais bon, vous voyez que je tape, hein, mais ça se voit, quoi. Hein. Enfin, qui veut vivre sur une autoroute, hein. Voilà, c'est un bon scénario pour Quentin Dupieux. Hein. À mon avis, ça sera un bon scénario. Voilà. Des humains, voilà, alors que c'est les Elon Musk et compagnie qui nous invitent à habiter sur une autoroute, quoi. Qui va les suivre, hein. Bon. Alors du coup, ça c'est l'agriculture. Alors il y a d'autres exemples, hein, aux marges, on voit que ça bascule vers la robustesse. Le tout réparable, alors là, je vous ai mis quelques exemples. Je pourrais rajouter la ressourcerie de Namur, où j'étais avant-hier, qui est tout à fait dans ce schéma-là, hein, du réparable, la réutilisation, etc. Donc là, vous avez plein d'exemples, hein, mais ce n'est pas tellement les exemples qui m'intéressent, c'est juste pour dire que ce n'est plus du tout anecdotique. Aujourd'hui, il n'y a plus d'entreprise qui ne se pose pas la question de la réparabilité de ses produits. Ben ça veut dire des choses. Hein. Ça veut dire qu'en fait, on est en train de finalement y arriver sur l'obsolescence programmée, quoi. Quand ça devient réparable, on n'a plus aucun intérêt à vendre des objets fragiles. Parce qu'il va falloir les réparer après. Donc, en fait, c'est une autre façon de construire les objets, quoi. Mais je vais juste vous donner un exemple que j'aime bien utiliser parce que c'est le journal de France 2. Vous voyez, donc, alors en France, on a France 2, bon, c'est un peu, voilà, c'est un journal qui est très, très écouté. Alors là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on commence à se rapprocher du cœur du système. Alors, c'est pas CNews, c'est pas BFM TV, voilà, donc c'est pas le cœur du système, hein, bien faisandé, là. Mais on est juste à côté. Et alors, quand on est sur France 2, donc ça, oui, c'est en avril dernier, donc un petit village, Saint-Martin d'Auxigny, qui avait, comme beaucoup, hein, optimisé le paysage, donc ils avaient canalisé leur rivière pour augmenter la production agricole en augmentant la taille des parcelles. Le remembrement, hein, la rationalité performante à l'œuvre. Alors, bah, pourquoi pas, sauf que bah, quand il pleut, quand vous avez une rivière qui est toute droite, là, eh ben, l'eau, elle va très, très vite, hein, et elle va inonder la ville. Donc, alors, il y a une fois une inondation, on se dit, bon, bah, pas de chance. Deux fois, trois fois, dix fois. Bon, bah, à force, on se dit, oui, non, là, ça marche pas. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait? Eh ben, avec un tractopelle, là, ils ont creusé une rivière avec des lacets. Vous voyez, ils ont refait des lacets dans la rivière. Et donc, ils ont ralenti la rivière. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, quand il pleut, eh ben, cette rivière qui est plus lente, elle inonde la parcelle. Et elle n'inonde plus la ville. Donc, on a désoptimisé le paysage pour gérer des fluctuations. Donc, on a fait de la robustesse territoriale. Et alors, là où c'est assez rigolo, c'est qu'ils ont fait ça avec des tractopelles. Aujourd'hui, on pourrait le faire avec des castors. Et oui, mais il y a des entreprises, donc à Valence par exemple, une entreprise qui engage des castors pour creuser des rivières. Donc voilà, on est dans ce moment quand même très joyeux. Hein. Oui, le monde de la robustesse, c'est vraiment carrément autre chose, quoi. Alors du coup, ben, ça nous amène tout de suite à questionner ce que c'est qu'un ingénieur. Alors le mot ingénieur, hein, c'est extraordinaire. Hein. Le mot ingénieur, c'est un mot du XVIe siècle, hein, qui dit en fait celui qui construit des engins de guerre. C'est ça un ingénieur, hein. C'est celui qui fait des catapultes et des fortifications. Hein. Donc évidemment, l'ingénieur, tout de suite, il avait quand même un petit défaut au démarrage, c'était l'agent de la performance, hein, celui qui fait, ou celle, hein, qui fait des incréments de performance via des délégations techniques distantes. Alors, les ingénieurs, dans le monde de la robustesse, il ne faut pas qu'ils désertent, hein. On a vraiment besoin d'eux, mais il faut juste qu'ils changent le sens des technologies qu'ils développent, ou des techniques qu'ils développent. En fait, ils ont les mêmes savoirs scientifiques, les mêmes maths, la même physique, les mêmes sciences sociales, tout ça, c'est tout pareil, c'est juste que c'est le sens qu'on va questionner. Donc du coup, ce que font les ingénieurs, eh ben, c'est des solutions robustes. Alors, c'est quoi une solution robuste? Ben, c'est deux choses. Technodiversité. Il faut que la solution proposée soit robuste, mais surtout, il faut qu'il y ait des solutions. Un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, etc. Et en plus, ce qu'on vise, c'est l'autonomie technique des citoyens. Donc, il faut que la solution technique soit appropriable, adaptable, réparable par les citoyens. Du territoire. Donc, ce n'est pas forcément individuellement, hein, ça peut être à l'échelle d'un collectif, d'une région, d'un pays, mais pas au-delà. Mon exemple favori, hein, c'est que si votre solution soi-disant robuste dépend d'un microprocesseur fabriqué à Taïwan, c'est fragile. Hein. Je ne vous fais pas un dessin, mais c'est fragile. Donc, du coup, bah, forcément, on va plutôt faire ça. Quoi. Et alors, juste pour enfoncer le clou complètement, souvent on dit, hein, les solutions écolo, hein, c'est technophobe. Hein. À la limite, la robustesse, on pourrait dire, ah oui, on va revenir en arrière, c'est contre l'innovation, hein, tout ça. Alors, faut juste bien se poser la question. Qui est technophobe dans cette histoire-là, là? Bah, c'est le monde de la performance qui est technophobe. Parce que dans le monde de la performance, quand on fait des solutions techniques extrêmement performantes, elles écrasent les technologies plus anciennes. Parce qu'on est drogué à la compétition. Hein. Et donc du coup, on écrase tout ce qui est dans le passé. Quoi. Parfois, sans aucune raison. Hein. Mais c'est juste parce que c'est plus performant, donc on prend ça. Quoi. Donc c'est technophobe. Et en plus, à chaque fois que c'est plus performant, ça éloigne la technologie des citoyens. Donc c'est doublement technophobe. Ici, personne n'est capable de réparer son smartphone, hein, je pense. Bon, bah voilà. Donc, ça veut dire qu'on s'est fait avoir, hein, très clairement. Donc, du coup, bah, dans le monde de la robustesse, bah, là aussi, c'est beaucoup plus joyeux, hein. C'est technophile, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait des nouvelles technologies et qu'elles sont robustes, on les garde. Mais c'est pas pour ça qu'on écrase des technologies plus anciennes. Si par exemple on fait l'impression 3D, hein, c'est mon exemple favori, l'impression 3D, eh ben, ça peut permettre de rendre des objets réparables à vie. Ben, ça peut être très utile, hein, pour aller contre l'obsolescence programmée, pour les territoires, etc. Voilà. Donc ça peut être très bien, mais c'est pas pour ça qu'on va arrêter de faire des maisons en terre crue, quoi. Non, c'est très bien aussi la terre crue. On garde tout, quoi. Et puis on vise l'autonomie technique des citoyens. Donc c'est vraiment doublement technophile. On veut que les citoyens mettent les mains dans le cambouis, quoi. Voilà. Donc c'est, voilà, c'est technophile, quoi. Ok, alors ça c'est pour les ingénieurs. Alors sur les organisations, plein d'exemples où on voit aux marges se développer des stratégies coopératives, donc les SCOP, les coopératives, l'habitat participatif, hein, qui est une véritable école de la coopération, hein, c'est l'habitat partagé, 15% du parc immobilier en Scandinavie, hein, enfin c'est vraiment loin d'être négligeable. Et puis donc il y a les approches participatives citoyennes, les conventions sur le climat, pour les entreprises, pour les citoyens. Donc tout ça en fait c'est des approches qui sont plus lentes, plus hétérogène, plus incohérente. Dans la Convention citoyenne pour Convention citoyenne pour le climat, il y avait des climato-sceptiques, hein, dedans. Hein. Enfin, c'est pour vous dire à quel point... Ben, en fait, avec ce truc-là, ben, ça génère beaucoup plus de légitimité et ça va créer des propositions nettement plus ambitieuses que ce qu'auraient proposé les députés et plus légitimes que ce qu'auraient proposé des experts. Ça, c'est de la robustesse démocratique. Donc en fait, il y a vraiment des tas d'exemples. En Belgique, là, vous aviez le G1000, là, je crois que d'ailleurs, c'est nous, les Français, qui se sont inspirés, on s'est inspirés de vous, hein, pour la Convention citoyenne pour le climat. Donc en fait, voilà. Donc ça circule, hein, quand même beaucoup, tout ça. Donc ça, c'est pas rien. Et alors du coup, je vais juste faire un petit point sur les organisations, enfin, petite parenthèse sur les organisations, parce qu'en fait, quand on regarde bien l'histoire longue de la société humaine, c'est vrai qu'on peut voir le côté drogue vers la performance, hein. Enfin, donc, voilà, ce progrès qui guidait vers la performance. Mais en fait, on se rend compte aussi qu'à chaque fois qu'on a eu des crises dans notre histoire, bah, très souvent, on a fait des incréments de robustesse. Et alors, le contrat social, bah, c'est un exemple qui est assez... alors, je ne suis pas un expert du contrat social, mais il y a quand même quelques ingrédients dedans où on voit bien qu'il y a énormément d'incohérences au service de la robustesse sociale. Alors, je vais vous donner un exemple. Oui, j'ai remis un amortisseur, hein, parce que c'est vraiment comme dans les réseaux génétiques des plantes ou des animaux. C'est à chaque fois des incohérences. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait de la robustesse. Alors, bah, modération sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, si vous ne mettez pas de modérateur sur un réseau social, ça va partir en dérive sectaire, hein. Donc un modérateur, c'est quelqu'un qui censure. Donc c'est les réseaux sociaux, c'est censé être la liberté d'expression. Et bien en fait, c'est une liberté au sens presque 1789 du terme. C'est une limite, c'est une définition négative de la liberté. Hein. On est libre dans un cadre. Si on enlève le cadre, on n'est plus libre. Hein. C'est de l'entropie, hein. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est carrément autre chose. Enfin, c'est la liberté libertarien. Hein. Ça, c'est de l'entropie. Hein. Enfin, c'est de l'augmentation de l'entropie. Ça n'a plus rien à voir avec de la liberté, quoi. Les contre-pouvoirs dans les gouvernements. Donc, un gouvernement, son premier rôle, ça doit être d'alimenter ses contre-pouvoirs. Donc, les journalistes, le Parlement, etc. Ben, ça, c'est typiquement une incohérence, quoi. Enfin, une contradiction interne dans le système. C'est quand on a le pouvoir, on va tout faire pour le perdre, en fait. Hein. C'est, oui, le truc. Ben, ça, c'est, voilà, ben, ça, c'est une incohérence. Le secret des sources pour les journalistes, le secret médical pour les soignants, et même la coopération. Quand vous pensez à la définition d'une coopération, c'est quand l'objectif commun l'emporte sur l'objectif individuel. Donc ça veut dire que dans une coopération, pour atteindre l'objectif commun, parfois il faut aller contre son objectif individuel. Ben ça, c'est aussi une incohérence, quoi. Mais c'est ça, ça nourrit la robustesse du groupe. Donc ouais, en fait, on a quand même des outils, quoi. Il y a du déjà là robuste, hein, et c'est en train de se développer très fort, donc notamment aux marges. Alors juste un petit point, oui, j'avais une autre petite parenthèse, parce que tout ça c'est très joli le contrat social, mais là on a un nouveau compagnon, hein, new kid on the block, hein, qui est le digital, qui est l'intelligence artificielle, qui rajoute des outils extrêmement performants. Et donc le contrat social actuellement est soumis à une forte contrainte d'outils et de machines qui nous poussent encore plus à performer. Et donc qui zappent certaines des acquis de robustesse qu'on avait dans le contrat social. Alors là, je vais prendre un exemple belge pour voir la réponse aux marges qui est apparue. Eh ben, c'est le travail du comité humain du numérique, hein, le code du numérique. Un travail absolument fantastique. Hein, vraiment, je vous invite à aller voir. C'est extraordinaire parce qu'en fait, c'est une réécriture du code civil, si vous voulez, à l'heure du numérique. où en fait, c'est pas pour dire on va résister au numérique, parce que non, le numérique est là, l'IA est là, c'est devenu un partenaire qui nous accompagne partout, faut pas se faire d'illusions, hein, c'est là pour rester. Donc c'est là, mais maintenant, il faut en faire quelque chose, il faut l'intégrer dans le contrat social. Et du coup, voilà, c'est exactement ça, il faut que le numérique s'adapte à l'humain et non l'inverse. Oui, c'est juste ça, hein. Typiquement, je vous donne un exemple, ils sont partis de ça, hein, le comité humain du numérique. Si vous avez des guichets sociaux qu'on numérise, hein, comme on veut faire à Bruxelles, hein, d'ailleurs, je crois que la loi est passée d'ailleurs. Hein. Donc en fait, on va avoir des services digitaux pour un public plutôt fragile. Hein, c'est des services sociaux en général, hein, c'est plutôt quand même des publics qui peuvent être fragiles. Bah, si on numérise tout, si on scanne des QR codes, faut être capable de scanner son QR code, faut avoir les outils pour scanner le QR code, et surtout, faut que derrière la machine, il y ait quelqu'un qui, la passion, ce soit de faire scanner des QR codes à des gens, quoi. Bon, il y en a pas beaucoup, hein. Quand on fait ce métier-là, hein, c'est en général qu'on veut avoir une interaction avec des vrais humains, quoi. On veut pas juste être une machine à faire scanner des QR codes, quoi. Donc on est en train de perdre des compétences, et le jour où le système plante, hein, parce que CrowdStrike fait une nouvelle mise à jour qui plante, ben là, on a perdu les compétences. Il y a pas de doublon, quoi. Hein, il n'y a pas de redondance, quoi. Donc c'est donc le code du numérique là, c'est justement pour proposer un monde où il y a du numérique, mais qui est vraiment au service des humains. Il est encore temps de réagir, quoi. Alors du coup, en fait, avec ces marges là, en fait, on voit qu'il y a beaucoup de potentiel et qu'en fait, le monde robuste, il est là, hein, quand même. Hein. Il arrive, il monte. Il y a des attaques, hein, mais il arrive, quoi. Alors du coup, comment on fait pour monter en échelle? C'est ma dernière partie. Alors, pour monter en échelle, parce qu'évidemment, les marges, c'est sympa, mais je ne voudrais pas non plus dépolitiser. Hein. Le problème de l'analogie avec les oiseaux dans la nuée d'oiseaux, là, c'est que ça, on pourrait presque dire qu'il faut juste attendre, hein, que ça va basculer. De toute façon, donc il n'y a rien à faire, hein, ça va se faire. Alors oui, on pourrait faire que ça, mais il y aura beaucoup de casse, hein, si on laisse faire. Hein. Donc, il ne faut pas dépolitiser. Il faut avoir un rôle proactif. Et donc, il faut monter en échelle. Donc, comment on fait pour monter en échelle? Eh bien, voilà, il faut pratiquer. Enfin, on peut pratiquer, quoi. Ça peut être une façon de faire. Alors, première chose, je vous ai déjà donné quelques inspirations. Il y a des inspirations aussi dans le monde de l'entreprise, hein, notamment. Donc là, pour le coup, j'ai remis la ressourcerie, mais il y a plein d'entreprises qui ont déjà fait un pas dans la robustesse. Et donc ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, d'un point de vue politique, hein, quand les entreprises font un pas vers la robustesse, ça, c'est un levier politique énorme. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en politique, on écoute beaucoup les entreprises. Donc, du coup, c'est un levier qui est important. Donc, il y a plein d'exemples. Hein. Bon, Pocheco, par exemple, là, c'est une boîte qui fait des enveloppes près de Lille et qui a fait de la robustesse socio-écologique son modèle, quoi. C'est une boîte qui veut laisser aucune trace de son passage. Donc, du coup, ils ont mis des plantes pour dépolluer les solvants de leurs machines. Ils ont des plantes pour isoler. Avec la biomasse qu'ils produisent, ils ont un peu d'autonomie énergétique. Donc, même d'un point de vue économique, ça a beaucoup de sens. Hein. Enfin, on remplace des tas de choses qu'on faisait avant par des services écosystémiques sur le terrain, quoi. Ils font de l'agroécologie, ils ont des collaborations avec les pompiers du coin pour récupérer les abeilles sauvages. Enfin, c'est un truc complètement dingue. C'est devenu un lieu culturel, hein, une annexe de la maison d'édition Actes Sud. Enfin, voilà. C'est robuste de plein de points de vue, quoi. Bon, voilà. Enfin, allez voir. Il y a plein d'inspirations. Il n'y a pas que dans les entreprises, hein, évidemment, hein, dans les collectivités territoriales, etc. Bon. Deuxième point qu'on peut faire pour pratiquer, c'est passer plus de temps sur les questions. En fait, dans le monde de la performance, on adore passer du temps sur les réponses, sur les stratégies, sur les business plans, hein, c'est les organigrammes. Hein, ça, vraiment, on adore ça. Hein, c'est vraiment le truc. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On apporte des excellentes réponses à des très mauvaises questions. Hein. Je reprends mon histoire de l'Islande, là, l'usine qui fait de la capture de CO2. Excellente réponse à une très mauvaise question. Du coup, dans le monde de la robustesse, on passe plus de temps sur les questions. On questionne les questions. En fait, on fait passer des tests de robustesse à nos questions. Et donc, en fait, il faut chahuter ces questions avec des interactions avec des personnes distantes, avec des jeux, etc. Donc, en fait, on chahute ces questions. Et donc, en fait, la question qu'on s'était posée au départ, elle va se déplacer. En fait, ce n'était pas la bonne question. Et puis, elle va se déplacer. Puis, à un moment, quel que soit à qui on parle, hein, que ce soit un boulanger, un trader, un géologue, ce sera toujours la même question. Si c'est toujours la même question, c'est une question qui est robuste, stable malgré les fluctuations. Cette question robuste, c'est celle-là à laquelle il faut répondre. Ça ne sert à rien de répondre aux questions qui ne sont pas robustes. Hein. C'est juste questionner la question. ça vous permet de... En fait, c'est une forme d'approche systémique par le chahut, quoi. Voilà, si vous voulez, quoi. Vous chahutez ces questions, quoi. Bon, questionner la question. Troisième chose, l'audit interne de robustesse. Donc ça, c'est vrai pour n'importe quel type d'organisation. Faites une sorte d'audit du déjà-là robuste dans vos organisations. Et donc cet audit, c'est un peu l'anti-McKinsey, hein, si vous voulez. C'est en fait, vous listez les contre-performances de votre organisation et au lieu de vouloir les éliminer, vous allez les valoriser. Donc en fait, vos contre-performances dans vos organisations, c'est ça qui ajoute du jeu dans les rouages et qui vous permet d'être robuste. Et donc là, vous avez des exemples. Alors, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas du tout exhaustif, c'est juste des éclairages comme ça. Hein. Mais par exemple, la motivation, voilà, la raison d'être explicite, hein, par exemple, ça veut dire que dans une organisation, c'est par exemple ce qu'on est en train de faire pour mon labo, mais c'est pour des tas d'organisations, une raison d'être, hein, c'est 5 phrases, quoi. Il faut que ce soit pas du tout complexe, voilà, c'est juste 5 phrases qui donnent l'identité. Mais en fait, tout le monde peut se raccrocher à ça, on peut justifier ses activités grâce à ça. Mais ça, c'est très simple, c'est très sous-optimal, parce qu'on va pas tout expliciter dans la raison d'être, hein, ce sera juste les grands axes. Ça laisse des marges de manœuvre, un peu de liberté. Et en fait, c'est très important, parce que ça permet à tout le monde, au collectif, de se rattacher, avoir ce sentiment d'appartenance, et d'avoir, de mobiliser, de fédérer, quoi. Donc ça, c'est indispensable. C'est pas parfait, vous voyez, c'est pas du customisé hyper performant où on saura exactement ce qu'on veut faire. Bon, enfin, il y en a plein d'autres, hein, mais peut-être que je pourrais juste dire ça là, c'est les deux verbes. Hein. Dans le monde de la performance, on prévoit. Parce que le monde est stable. Dans un monde stable, abondant en ressources, on prévoit. Parce que, en effet, vu qu'il est stable, on sait à peu près ce qui va se passer. Dans un monde fluctuant, en pénurie chronique de ressources, prévoir, c'est surtout arrogant. En fait, notre seule certitude, c'est le maintien et l'amplification de l'incertitude. Donc du coup, dans un monde fluctuant, on ne prévoit pas, on se prépare. C'est très différent, hein. Se préparer, c'est-à-dire qu'en fait, on a plusieurs scénarios et on ne sait pas très bien ce qui va se passer et on a pris suffisamment de marge de manœuvre pour qu'il y ait encore un autre scénario qui soit possible. Bon, ben voilà, je ne vais pas lister tous les trucs, mais vous voyez, c'est vraiment le contraire, hein, du catéchisme performant qu'on nous a inculqué pendant des années. Hein, le zéro stock, le flux tendu, hein, tout ça, c'est du, voilà, c'est le management des années 80, hein, très clairement. Alors du coup, bah, je continue, santé commune. Alors la santé commune, c'est juste une façon de se reconnecter à la Terre, hein, finalement. Cette pyramide-là, ça c'est la pyramide qu'on a dans le monde de stable, abondant ressources, le monde de la performance. Hein. Donc en fait, quand on fait un projet, il faut d'abord que ce soit viable économiquement. Donc on a une fondation économique. Si c'est viable économiquement, alors il y aura du lien social. Et s'il y a du lien social, dans le temps qui nous reste, on va s'occuper de l'environnement. Vous voyez, même le mot environnement dit des choses, hein, c'est du décor, quoi. Donc en fait, c'est la phrase, on va s'intéresser à l'impact de nos activités sur l'environnement. Alors ça, bah, en fait, cette pyramide, hein, elle n'a aucun sens dans un monde fluctuant, parce que la fondation, c'est l'économie. L'économie, c'est une abstraction, donc il n'y a pas de base physique à ce modèle-là. La base physique, hein, c'est une brique qu'il y a en dessous, qui manque là, c'est du pétrole pas cher, hein. Donc le rôle de l'économie, c'est de gérer l'abondance de pétrole, hein, enfin, pour le dire un peu brutalement, quoi. Donc du coup, bah, ça marche très bien tant qu'il y a du pétrole et que c'est pas polluant, mais manque de peau, c'est polluant le pétrole. Donc du coup, et les métaux, pareil. Enfin, ça. Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait dans le monde de la robustesse? Bah, on change, on inverse. Donc dans le monde de la robustesse, on prend d'abord soin des milieux naturels. Si on prend soin des milieux naturels, alors ça crée du lien social. S'il y a du lien social, alors ça créera des modèles économiques. Ça, c'est comme ça que fonctionnent toutes les civilisations, toutes les sociétés. Il n'y a pas d'autre façon d'être terrien, quoi. Hein. Quand on est terrien, on prend d'abord soin de son habitat. Enfin, c'est aussi trivial que ça, quoi. Et vous voyez, ça inverse la phrase, hein. Maintenant, on se demande l'impact de l'environnement sur nos activités. Et ça, c'est un vrai retournement, hein. Et alors ça, on le voit beaucoup, hein, dans les organisations, les entreprises, les collectivités territoriales. On se pose plus du tout la même question. C'est que maintenant, l'environnement a pris le dessus, quoi. Les fluctuations de l'environnement, voilà. Qu'est-ce que ça fait sur nos activités? Qu'est-ce qu'on va changer de nos activités? Parce que maintenant, c'est l'environnement qui décide, quoi. Le monde fluctuant détermine nos stratégies. Voilà. En fait, quand on est sérieux, enfin, quand on endosse le fait scientifique, le monde devient fluctuant, on change de stratégie, forcément, quoi. Alors, j'ai presque terminé. Posture des décideurs. Et ça, c'est pour les organisations, c'est quand même particulièrement important. Donc, dans un monde stable, abondant en ressources, le décideur, hein, dans ce monde-là, c'est un meneur qui est au service du pouvoir. Donc, c'est quelqu'un qui dit « je veux et je sais comment faire ». Ouais, bon, je pense que tout le monde peut avoir des exemples. Alors ça marche très bien dans un monde avec plein de ressources, hein, parce que c'est pas très grave si le décideur se plante, parce que de toute façon, il y a plein de ressources à côté, donc pas trop grave. Alors bah du coup, dans le monde de la robustesse, c'est carrément autre chose, quoi. Enfin, dans le monde instable, en pénurie chronique de ressources, le décideur, c'est un facilitateur au service de la puissance. C'est autre chose. C'est qu'en fait, le facilitateur, enfin, ou la facilitatrice, évidemment, va dire « j'ai envie et je ne sais pas comment faire ». C'est le contraire, hein, de nouveau. Hein. C'est l'inverse, quoi. Donc, en fait, quand vous faites ça, en fait, bah, vous mettez le manque. au milieu du groupe, quoi. Quand vous mettez le manque au milieu du groupe, ça va créer ça va fédérer, ça va mobiliser. Et en fait, ça va créer les conditions dans lesquelles, même si le décideur n'est plus là, ça va continuer. Bah, ça, c'est de la puissance. Ça peut se propager, se déployer en l'absence du décideur. Donc les êtres vivants sont surtout puissants, hein. Ils sont beaucoup moins dans le pouvoir. Bon, après, c'est toujours pareil, hein. L'équilibre performance-robustesse, c'est vraiment un équilibre. C'est-à-dire, en fait, pour être... on va quand même tabler sur les deux solutions, hein, à la fois pour performance-robustesse ou pouvoir et puissance, mais c'est juste l'équilibre qui change. Dans un monde stable et abondant en ressources, on fait beaucoup de performance, beaucoup de pouvoir, et puis quand il y a une crise, on se pose la question de la robustesse et de la puissance, quoi, hein, d'approche participative, tout ça. Dans le monde fluctuant, en polycrise, instable, en pénurie chronique de ressources, on fait de la robustesse tout le temps, on fait de la puissance tout le temps, et de temps en temps, on autorise le pouvoir et la performance. C'est le pompier, quoi. Hein. Le pompier, il dort, il s'entraîne, tout ça, c'est de la robustesse. Hein. Et puis quand il est au feu, ah bah là, par contre, c'est du pouvoir, c'est de la performance, quoi. Là, il n'y a pas d'approche participative, hein. On y va, quoi. Là, ça, c'est une autre approche. Ok, bon, je vais m'arrêter là. Alors, si vous voulez creuser, donc il y a plein de formations, et dont certaines personnes qui sont dans cette pièce, Bernard qui est là, Bernard Huberlan, via Vectis, larobustesse.org, pour le management aussi, avec Olivier Bouche, Paola Adorno qui fait aussi du slam sur la robustesse. En fait, c'est vraiment un thème qui se développe, et vraiment, je vous encourage, parce que ce que je vous raconte dans une conférence, là, c'est juste la graine, quoi. Hein. Après, si on veut vraiment pratiquer, il faut venir avec son projet et pendant une semaine le travailler, quoi, ou pendant des mois, etc., quoi. Enfin, c'est sur du long terme, quoi. Et donc, il y a plein de personnes très compétentes pour continuer ce travail-là. J'ai juste mis des logos aussi, quand même, un petit clin d'œil local. Alors, c'est la Wallonie, c'est pas Bruxelles, mais bon, voilà. Le ministère de l'Environnement Wallon, hein, quand même, qui a mis la petite robustesse, Médor, hein, voilà, charte du journalisme robuste. Donc, c'est pour vous dire que vous avez un territoire qui est quand même particulier sur la robustesse. Alors, il y a certainement eu beaucoup d'aide de la RTBF, Arnaud Hussein et compagnie, pour soutenir ça. Mais quand même, c'est un territoire où il y a beaucoup d'initiatives et c'est soutenu médiatiquement. Donc, du coup, vous êtes en fait très en avance sur l'appropriation de la robustesse. Hein. Je vous dis pas ça parce que là, je suis avec vous. C'est vraiment, vous êtes le seul territoire où c'est à ce point-là, quoi. Voilà, c'est assez net, quoi. Ok, bon, j'arrête là avec les bouquins ont déjà été présentés, donc je vais peut-être pas en rajouter. Je peux rajouter le MOOC cours sur la robustesse si vous voulez creuser avec un autre format, des conférences en ligne, un TEDx, et surtout le site de l'Institut Michel Serre, institutmichelserre.fr. Il y a un petit onglet qui s'appelle S'impliquer. Vous allez avoir les premiers pas, les liens vers les formations, etc. quoi. Donc, n'hésitez pas à faire un tour. Je m'arrête là parce que j'ai déjà été assez long.
Merci en tout cas pour cet exposé. Alors moi j'ai noté quelques petites choses comme ça au fil de l'eau. Et d'abord en fait, moi je suis très content toujours en tant qu'administrateur de la SNCB de voir des métaphores plus ferroviaires. Et donc j'ai déjà remarqué que tu en as fait plusieurs, hein, donc parce que tu parlais de dérailler la performance, de changer d'aiguillage, etc. Donc voilà. Avant toute chose en fait, je voulais aussi commencer par dire que normalement je n'aurais pas dû être là. Pourquoi ? Parce qu'avec Arnaud, on avait prévu d'essayer de convaincre des intervenantes de venir ce soir pour rendre un peu le débat un peu plus diversifié au niveau des genres. On avait pensé à Géraldine Thierry, qui est donc économiste à la Banque nationale. On avait pensé à Audrey Flore Ngomsik, qui est à l'étranger, donc qui ne pouvait pas être là ce soir. Et donc, voilà pourquoi je suis ici. Avant de passer la parole à l'audience, j'avais quelques réactions. Comme le disait Arnaud, j'ai la chance d'être actif dans l'économie durable, ce que je n'appelle plus la transition. Chez Igneos, on parle plutôt de transformation, parce que voilà, la transition, c'est beaucoup trop soft et ça donne l'impression que voilà, on va pouvoir modifier à la marge 2-3 petites choses. Je vous invite aussi évidemment à lire Jean-Baptiste Fressos à ce sujet-là, qui casse un peu ce mythe de la transition qui n'a jamais eu lieu, hein. Donc les matières ne se sont jamais substituées l'une à l'autre. Au contraire, on n'a jamais fait qu'augmenter. Je crois que la seule matière qui a été réduite en production et en consommation, c'est la laine de mouton. Voilà. Le bois n'a pas diminué dans son exploitation au moment de l'exploitation du charbon. Au contraire, parce qu'on n'a plus utilisé du bois pour se chauffer, mais on a utilisé du bois pour étançonner les mines. Et le charbon, quand on n'a plus utilisé du charbon pour se chauffer, on a utilisé du charbon pour produire de l'acier. Et donc, finalement, toute l'évolution, entre guillemets, de l'humanité est toujours dans le plus. Et donc, la transition, évidemment, on n'y arrivera pas. Et peut-être quand même une petite remarque un peu critique, ou en tout cas pour remettre l'église au milieu du village, c'est le fait que, est-ce qu'on va y arriver ou pas ? Donc, tu citais pas mal d'exemples, et j'en connais, notamment je participe à une initiative qui s'appelle la coalition Kaya, des écopreneurs, donc qui réunit en fait toutes les entreprises, les start-up, les scale-up, qui tentent des nouveaux modèles économiques dans la robustesse et dans la durabilité, avec quand même la difficulté de faire face à l'autre monde de la performance. Et donc, avec effectivement des armes qui ne sont pas tout à fait égales et qui font que, voilà, il y a encore récemment, je crois que c'est une initiative, la ressourcerie qui a fait faillite, on a Grasse Popper, une épicerie en vrac, etc., qui a également fait faillite. Et enfin, on ne les compte plus, toutes ces initiatives super chouettes qu'on aime voir sur les plateaux et présenter. Et puis en fait, on constate qu'au bout de 6 mois, désolé, Emmanuel, tu es là aussi, et tu connais toutes ces initiatives qui font un peu pchit, quoi. Donc juste pour tempérer un petit peu le côté positif du message, je pense que c'est important, quand on parle de transformation durable, de rester dans l'espoir et le positif, mais en étant attentif aussi qu'il y aura un vrai enjeu d'assurer une concurrence loyale entre ces différents modèles, voire même de privilégier quelque part la robustesse de ces modèles pour leur permettre de se déployer à pleine échelle. Donc je ne sais pas si tu voulais peut-être réagir un peu là-dessus.
Oui, bien sûr. Alors, tu as tout à fait raison. La ressourcerie namuroise ont fêté les 30 ans. Hein. Donc il y a aussi des systèmes qui durent, mais qui sont robustes. Quoi. C'est un point clé. Hein. Pour moi, la principale menace, c'est vraiment les ultra-performants. C'est non seulement leurs projets sont délirants, hein, j'ai déjà dit, mais ils vont embarquer beaucoup de monde avec eux. Et en fait, c'est le point de vigilance, c'est eux, enfin de vigilance ou même de résistance, c'est eux. Parce que, et je dis bien eux, hein, parce que c'est que des mecs, hein, grosso modo. Donc, c'est cela qui m'inquiète. C'est qu'en fait, à la limite, si on oublie un peu l'ultra-performance, en fait, moi, je rencontre beaucoup de gens, hein, des collectivités territoriales, des associations, des entreprises. Tout le monde, c'est des oiseaux qui sont plus ou moins aux marges, mais en fait, les fluctuations, elles deviennent très fortes pour tout le monde. Hein. Sauf pour ceux qui ont un gros matelas et du coup, qui ne voient pas les fluctuations. Et donc, c'est Elon Musk et compagnie, quoi. Et pour vous dire, hein, quand même, alors juste sur Elon Musk, un petit clou supplémentaire dans le cercueil d'Elon Musk, la Tesla, vous voyez, la voiture, 240 kilos de cuivre, enfin hein, bon, c'est 12 fois plus qu'une voiture thermique, enfin, truc complètement débile, mais un truc supplémentaire, hein, pour optimiser la voiture Tesla, la batterie est soudée au châssis. Donc ça veut dire que si vous laissez votre Tesla et qu'il y a de l'eau qui monte, hein, parce qu'il y a une petite inondation dans votre voisinage, et que l'eau reste la nuit et qu'elle touche le châssis, la voiture, il faut la mener à la casse. Ce n'est pas réparable. Donc quand on voit le prix d'une Tesla, je ne sais plus combien on est, mais c'est complètement dingue quand même. Hein. C'est vraiment ahurissant. Bon bref, donc c'est cela qui m'inquiète. Et donc je suis d'accord, il y a un moment, il va falloir désobéir, quoi, hein, clairement. Les ultra performants vont quand même vraiment nous envoyer, ils vont envoyer beaucoup de monde à la casse, quoi, eux aussi. Donc il faut avoir un discours de réalité. Moi, je suis très optimiste sur la bascule vers la robustesse parce que c'est inéluctable. C'est le sens de l'histoire. Dans un monde qui devient très fluctuant, on va aller vers la robustesse. On aimerait que ça aille encore plus vite, que ça soit encore plus pluriel, etc. Les ultra performants vont freiner ce truc-là, ils vont résister très fort, et donc ils vont faire beaucoup de casses, mais du coup, il faut vraiment les identifier, hein, et donc pas du tout, il ne faut pas se faire piéger par le rêve de l'ultra-performance, hein, c'est un cauchemar, l'ultra-performance. Et l'autre chose, c'est plus une question politique, alors je me défausse un peu, hein, mais par exemple, un truc qui est complètement anormal, c'est qu'aujourd'hui, la nourriture ultra-transformée est moins chère que de la nourriture, pas transformée, quoi, voilà. Ça, c'est incroyable parce qu'on a plein d'outils. Hein, le bonus-malus, ça sert à ça, hein, finalement. Hein, c'est rééquilibré. L'eau, par exemple. Alors, je vais prendre l'exemple de Lyon, qui est plutôt une politique intéressante sur l'eau. Donc, les premiers litres d'eau sont gratuits ou quasi gratuits. Ensuite, les litres suivants sont au tarif, on va dire, normal. Après, quand ça dépasse une certaine borne, alors là, c'est très très cher, quoi. Donc la piscine, ça va coûter cher. Ça va coûter très cher.
On a la chance d'avoir le président de la société Wallonne des Eaux, donc il va en prendre de la graine.
Ouais. Non mais on est dans ce monde-là. C'est qu'en fait, c'est une question de justice sociale, hein, la question socio-écologique. Hein, c'est une question de justice sociale. Et donc en fait, il faut que, on a tous les outils en main. C'est comme pour l'agriculture. Le bonus-malus, c'est pas très compliqué à mettre en place, quoi. C'est qu'une question de courage politique. C'est comme ce que je vous disais, je l'ai pas dit, dans la liste, là, il y avait choisir ses clients pour une entreprise. Vous savez, quand on parle d'éco-conception, de faire des objets éco-conçus, biodégradables, biosourcés, etc., c'est super ça, hein, c'est plutôt le monde du futur. Sauf que si c'est toujours un tractopelle qui sert à construire une usine de fast fashion, c'est toujours toxique, hein, même si le tractopelle il est fait en mycélium de champignons biosourcés, quoi, hein, ça reste un tractopelle, quoi. Donc du coup, l'éco-conception, c'est beaucoup plus simple en fait, hein. L'éco-conception, c'est d'abord faire le tri dans ses clients et dans ses fournisseurs. Et donc, ça veut dire, par exemple, des clients toxiques, comprendre qu'ils vont d'abord vous contaminer quand vous êtes une entreprise, quoi.
Okay. Ouais. Je voulais prendre un deuxième exemple. Et puis, vraiment, après, je vous laisse la parole, vraiment. C'est prendre l'exemple des grosses entreprises. Donc, j'ai parlé de la société Wallonne des Eaux qui est représentée ici. J'ai la chance, effectivement, aussi de siéger dans le conseil d'administration de la SNCB et de voir aussi que là, alors qu'on parle d'une entreprise qui a quand même un impact et un rôle majeur à jouer dans la robustesse et dans la décarbonation de notre mobilité, c'est de constater malgré tout que ça ne vit pas. Enfin, je veux dire, et de nouveau, je ne veux pas casser l'ambiance, mais qu'à de très, très rares exceptions près, les discussions qu'on peut avoir sur, par exemple, les opportunités liées à la décarbonation du transport, il y a encore beaucoup de gens qui voient ça comme... Oui, mais non, c'est nous, la SNCB, notre rôle, c'est de transporter des gens pour aller au travail, le matin, le soir, et that's it. Et donc, quelque part, pourquoi diable développerions-nous une offre le week-end, le soir, la nuit, etc. Parce que ce n'est pas notre métier, et finalement, il n'y a pas de demande, et donc ce débat-là. Aussi lié, évidemment, toujours le débat aussi, parce que tu parlais de la tarification. Alors là, je prends un autre exemple de peut-être certains activistes qui disent si on veut décarboner, il faut que le transport soit gratuit. Là aussi, je me permets quand même d'être un peu challengeant par rapport à ça en disant aujourd'hui, la SNCB, c'est 800 millions de recettes propres liées à ces billets. Est-ce que ce qu'il faut faire pour être robuste demain, c'est financer ces 800 millions par les budgets de l'État ou au contraire, rajouter 800 millions en plus de ces 800 millions déjà existants pour faire de cette SNCB quelque chose qui. Est une offre attractive et qui permet aux gens de se déplacer dans des conditions tout à fait acceptables. Donc la tarification peut être quelque chose de mal utilisé d'une part et d'autre part, dans ces organisations, même ces organisations publiques, on constate et on cohabite avec des gens qui ont des systèmes encore un peu sous l'ancien logiciel,
hein. Donc là, c'est du Gramsci dans le texte, hein, c'est l'hégémonie culturelle. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce qui se passe là, la bascule de la performance à la robustesse, c'est d'abord, la question socio-écologique, c'est d'abord une question culturelle. Mmh. Et donc, le premier rôle des décideurs, des organisations, c'est de désintoxiquer, de désinhiber les collectifs.
Il y a du boulot, hein, je peux te
dire. Il y a énormément de travail. Mais c'est un vrai travail, c'est-à-dire que c'est un travail de communication, d'appropriation, de formation, d'incohérence, de chahutage, de générer du trouble. Donc tout ça, c'est un vrai travail de déprise sectaire. C'est une déprise sectaire planétaire qu'il faut lancer. Donc en fait, c'est vraiment. Et donc Aurélien Barraud le dit bien mieux que moi, hein, mais la question écologique, c'est d'abord une question culturelle, symbolique. C'est ça qu'il faut casser tout de suite. Le rêve américain, c'est un cauchemar.
Tant que nous appellerons progrès le fait
voilà.
de...
Voilà, donc... C'est ça. Et du coup, et donc c'est aussi le rôle des décideurs. C'est-à-dire que je ne veux pas non plus là aussi dépolitiser. Le premier rôle des décideurs, c'est de désinhiber et de désintoxiquer ses collectifs, son collectif. Donc ça veut dire vraiment en parler matin, midi et soir. C'est-à-dire que si vous êtes aligné avec le dogme de la performance... Hein, vous n'avez pas besoin de beaucoup communiquer. Hein. Vous pouvez dire, ce micro-là, il est moins cher que la concurrence. Hein. Vous le dites une fois, tout le monde a compris. Hein. Si par contre vous dites, il est biodégradable, c'est construit avec l'insertion sociale, je sais pas, vous pouvez dire plein de choses.
C'est plus compliqué.
C'est plus compliqué, mais par contre, il faut en parler beaucoup, 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 beaucoup plus. Vraiment, matin, il faut matraquer, quoi. Comme une déprise sectaire. Hein. Faut vraiment y aller, mais vraiment fortement. Quoi.
La désintoxication.
Désintoxication d'abord, ouais.
Voilà, y a-t-il des questions dans la salle?
Merci. Michel Quicheron, moi je travaille à l'Europe au programme LIFE, donc on finance l'environnement et la biodiversité. La biodiversité a eu sa fenêtre d'ouverture, je ne sais pas si ce sera encore le cas avec la nouvelle commission. Et ma question c'était comment réconcilier la biodiversité et la finance ? Parce que si on veut, si on prend la décision de mettre l'accent sur la biodiversité, il faut mettre des moyens financiers. Et sans nécessairement créer encore un nouveau marché avec des crédits de biodiversité. Ça c'était ma question. Voilà.
Merci. C'était une question à peu près semblable. En fait, le problème, souvent, c'est l'exigence de rentabilité, sauf pour les ASBL ou les coopératives où on peut fonctionner sans vouloir faire de bénéfices. Et alors, l'idée qu'il faut une croissance pour qu'une entreprise fonctionne. Et là, c'est vraiment un gros problème au niveau pour pouvoir faire de la robustesse. On ne doit plus vendre après puisqu'on l'a vendu des choses qui tiennent et qui restent longtemps.
D'accord, alors je vais répondre à cette première question, en fait, deuxième question pour revenir après sur la biodiversité et la finance. Alors, la rentabilité n'est pas associée à la performance. En fait, la rentabilité ne dépend que de l'environnement. Dans un environnement très stable, abondant en ressources, on augmente sa rentabilité quand on met l'accent sur la performance. Dans un environnement qui est instable, en pénurie chronique de ressources, on augmente sa rentabilité en mettant l'accent sur la robustesse. Parce que les très performants sont très fragiles. Et donc, on n'est pas rentable. On n'arrête pas de se casser la figure. Donc, en fait, ce sont les robustes qui ont un avantage compétitif dans un monde fluctuant. Vous voyez le paradoxe, hein ? C'est qu'en fait, plus on est robuste et plus le monde fluctue, ben en fait, plus on reste, quoi. Et du coup, à la limite, les plus performants, eux, ils dégagent, quoi. Donc, en fait, on peut très, très bien penser rentabilité, mais ce n'est pas un gros mot, quoi. C'est juste que ben, ça permet notamment aux ASBL, etc., de survivre hein, dans un monde fluctuant. En fait, le problème, c'est qu'on a des tas de raisons de penser qu'on est encore un peu dans le monde stable. Hein, et du coup, bah, voilà, quand on commence à aller dans la robustesse, c'est compliqué parce que c'est pas fluctuant tout de suite, quoi, ou pas toujours quand on l'imagine. Sur le lien entre finance et biodiversité, alors, un outil moi, que j'aimerais bien qu'on développe, c'est, alors, ce qui a été développé pour le climat, hein, c'est le bilan carbone. Hein, voilà, c'est le quota carbone, tout ça, ouais, ça a été bien financiarisé. Et donc, avec toutes les déviances qu'on a vues, hein, voilà, l'Islande encore. Je comprends que quand on est dans la finance, on a besoin d'avoir des indicateurs. Alors le mot indicateur, hein, évidemment, n'a aucun sens hein, dans un monde instable, hein, parce que ça dit que le monde est stable, hein, le mot indicateur. Donc dans un monde instable, il ne faut pas d'indicateur, il faut des tests de robustesse. Hein. Il faut un outil dynamique dans un monde instable, il ne faut pas des outils statiques. Mais puisqu'on est encore un peu dans ce monde voilà, entre performance et robustesse, entre stabilité et instabilité, si on devait faire un nouveau bilan carbone qui tient compte de la biodiversité, mais qui soit assez réduit pour qu'on puisse quand même donner un chiffre, ou en tout cas quelque chose à nourrir quoi, pour un financier qui a besoin de rentrer sa case d'Excel, là, ben je ferai un vrai bilan carbone. Alors le bilan carbone, ce serait la quantité de biomasse organique dans les sols. Donc on fait des carottes dans les sols, on mesure la quantité de matière organique. Et ça, en fait, c'est un indicateur imparfait, mais bien meilleur que la quantité estimée de CO2 émis, hein, qui finalement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. La quantité de biomasse carbonée dans le sol, en fait, plus il y a de biomasse carbonée dans le sol, plus ça veut dire que là, il y a un sol qui est vivant, avec beaucoup de biodiversité, et donc qui accumule de la biomasse, quoi. Ça veut dire aussi que bah, si c'est un paysan qui est au-dessus, il fait bien son travail. C'est-à-dire qu'il récolte de la biomasse, mais il en laisse pour que le sol se régénère. S'il y a beaucoup de biomasse, ça veut dire qu'il y a des êtres vivants, donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de pollution. En tout cas, il n'y a pas des pollutions majeures. Puisqu'il y a beaucoup de biomasse, ça veut dire que c'est un écosystème qui produit beaucoup de biomasse. Donc ça va aussi répondre à la pénurie de ressources. Donc en fait, moi, si j'étais en charge, j'aurais tendance à dire, les paysans, on va arrêter de leur faire remplir des tableaux Excel. On fait des carottes de sol, à droite à gauche. S'il y a beaucoup de matière organique, on les laisse tranquilles. Ça veut dire qu'ils travaillent très bien. Si par contre, ils sont en train de faire un désert, alors là, il faut qu'on parle. Voilà.
Quand même des indicateurs.
Mais voilà, donc ce serait ma voilà, c'est le seul indicateur que je laisserais passer, quoi. Parce que c'est un indicateur qui est cumulé, quoi. Voilà. C'est aussi pour ça.
Naomi Klein nous parle d'un risque de se retrouver finalement dans une situation très critique où on aurait des zones vertes et des zones rouges, bon, qui existent déjà aujourd'hui malheureusement. Zone verte où on a la sécurité, l'alimentation bio, on est en bonne santé, on peut jouer au golf, etc. Et puis la zone rouge, ben, c'est pour les autres, c'est-à-dire la majorité des personnes. Et donc pour éviter cette situation face à l'urgence climatique, est-ce qu'il n'y a pas aussi nécessité d'arriver à trouver des tactiques vis-à-vis aussi des personnes qui peuvent peut-être basculer de la situation très capitalistique, etc., pour rejoindre finalement des nouvelles expérimentations. Et donc je me demande quelle est la place du bilinguisme, en tout cas de pouvoir finalement amener des personnes en utilisant d'abord, et c'est ce que je fais parfois dans certaines missions pendant les 2-3 premiers mois, je dis à l'équipe, on ne va pas utiliser un seul terme lié à la biodiversité, la circularité, etc. Sinon les gens ne nous écoutent même pas, on va leur parler performance, on va parler réduction de coûts, etc. Et puis à un moment donné, les personnes commencent à écouter. Et donc est-ce qu'il n'y a pas aussi une place pour cet espèce, enfin voilà.
Alors, oui, en effet, on est dans le monde ambigu, et donc en fait, il faut aussi que nous, on ait des discours ambigus. C'est le rôle de l'incohérence, c'est que en fait, ça crée de l'espace. Quand on est très cohérent, il n'y a aucun espace. Donc on aura besoin de tout le monde, hein, à la fin du fin. Hein, donc on aura besoin de tout le monde, hein, y compris Total et McKinsey. Hein. C'est juste que bon, ils ne sont pas prêts là, mais ils vont finir par y arriver, ils n'ont pas le choix, eux aussi, ils vont y aller. Donc du coup, alors, je vais vous donner un exemple que j'aime bien prendre. Alors c'est aussi dans le monde de l'agriculture, hein, bon, c'est mon côté INRAE peut-être qui revient là, mais les mégabassines, voilà, c'est un exemple que j'aime bien parce que là c'est un problème politique. Alors en Belgique vous n'avez pas trop le problème, hein. J'ai cru comprendre que vous avez assez d'eau donc vous n'avez pas besoin de mégabassines, mais alors donc, en tout cas chez nous c'est un gros sujet, hein. Les mégabassines deviennent de plus en plus méga et du coup les citoyens disent ah non, il faut arrêter ça. Alors du coup là comment on fait pour dialoguer avec d'un côté les écolos qui disent une mégabassine c'est une grande bâche de plastique avec de l'eau stagnante dans une zone où il y a de la sécheresse, donc c'est de l'eau qui s'évapore qui sert à rien, et l'eau qui reste c'est pour alimenter de l'agriculture intensive, pour faire du maïs qui va nourrir des poules, pour faire de la viande, enfin bref, donc ça tire vraiment toutes les mauvaises cases, quoi. Les paysans, les agriculteurs qui sont dépendants de cette eau, eux, ils vont dire, oui, mais nous, on vous nourrit, et moi, ça fait des années que je suis là, moi, je suis en train d'acheter mon troisième tracteur avec des subventions pour rembourser la dette de mon deuxième tracteur, j'ai besoin d'eau en septembre, là, il faut que je l'aie tout de suite, mon eau, quoi. C'est pas négociable, quoi. Donc ça, tout ça, c'est très entendable, hein, les deux côtés. Hein. Alors du coup, comment on fait pour créer de l'espace, hein, trouver une troisième voie entre cette polarisation-là ? Ben, alors, une proposition, c'est de dire, alors, on va construire la méga-bassine, mais par contre, à l'agriculteur, on va lui dire, si vous utilisez 1 cm³ d'eau de cette méga-bassine, vous vous engagez à basculer dans l'agroécologie en 5 ans ou en 10 ans. Et donc, en fait, c'est un effet de cliquet. C'est qu'en fait, ce qu'on veut, c'est que dans 10 ans, l'eau qui est dans la mégabassine, il faut qu'elle soit dans votre sol. Et donc, en effet, il faut qu'il y ait de la matière organique qui stocke l'eau dans votre sol. Hein. On peut stocker autant d'eau, hein, dans un sol avec de la matière carbonée. Hein. Donc, en fait, c'est juste dire, donc c'est un discours incohérent, hein, parce que l'agriculteur qui fait l'agriculture intensive, on est en train de lui dire, toi, tu vas basculer dans l'agroécologie. Quoi. L'écolo, il ne va pas être content non plus, hein, parce que lui, il ne veut surtout pas qu'on construise une mégabassine, mais on va quand même la construire. Donc tout le monde est mécontent. Donc, c'est ça qui est génial. Mais c'est la troisième voie. C'est qu'en fait, tout le monde est mécontent. Mais par contre, on a trouvé une voie qui nous fait avancer, quoi. C'est une tactique de l'incohérence, très clairement. Ce modèle-là, à mon avis, on peut l'utiliser pour plein d'autres cas, quoi. En gros, quand vous bloquez... Alors ça, c'est la phrase d'Eisenhower. Hein, quand vous bloquez sur un problème, élargissez-le. Quand vous bloquez sur un problème, élargissez-le. Hein. C'est un appel à la pensée systémique. Et bien donc, il ne faut pas oublier qu'on peut faire le contraire de ce qu'on veut faire. Voilà. En général, on reste coincé avec ses certitudes et du coup, on ne trouve pas de solution. Quoi. On reste polarisé, on s'auto-polarise. Il faut juste penser, si on faisait le contraire, quoi. Voilà. Si on faisait le contraire.
Justement, alors, je vous propose une autre situation. Prenons peut-être une famille dans un quartier populaire ici à Bruxelles qui vient de l'étranger, qui vit dans un petit logement, qui a un accès au travail difficile, à l'école difficile. Comment vous appliquez ce concept de robustesse à cette situation ?
Oui, alors, situation difficile. Alors, l'intérêt de la robustesse, hein, par rapport à d'autres termes, comme la sobriété, ou tout ça, la résilience aussi, la robustesse, ça, tout le monde répond. C'est une pulsion humaine profonde. Durer, transmettre. Tout le monde répond. C'est universel. Tout le monde veut durer, tout le monde veut transmettre. Et donc, en fait, si on a une situation comme ça, qui est délicate, en fait, c'est quelque part remettre au milieu du village la question de la sécurité sociale, de la sécurité alimentaire, qui sont des inventions de robustesse après la Seconde Guerre mondiale, hein, pour le dire rapidement. La redistribution, c'était même après la Première Guerre mondiale. Donc on a inventé, c'est le contrat social où il y a déjà la robuste, en fait. À chaque fois qu'il y a eu des grosses fluctuations, on a plutôt inventé des solutions, des grosses fluctuations, voilà, des guerres, etc. On a plutôt inventé des solutions robustes. Et donc, en fait, c'est valoriser ça, donc les services publics, etc. Donc, en fait, une famille qui est dans une situation difficile, eh ben, il faut créer un espace où elle soit rassurée. C'est aussi bête que ça. Mais en fait, alors je vais vous donner un exemple qui n'est pas exactement celui-là, mais dont on m'a parlé à la ressourcerie namuroise avant-hier. Ils font de l'insertion sociale avec des personnes qui ont eu des accidents de la vie. Alors, soit des handicaps physiques, soit des handicaps des migrants, qui leur famille s'est fait décimer, enfin vraiment des histoires terribles. Donc ils arrivent, ils n'ont pas de compétences, ils ne sont pas formés, ils sont traumatisés d'une certaine façon. Alors, la version performante, ça serait de dire, on va te faire une formation en 3 semaines, tu vas devenir un as de la réparation de la menuiserie, quoi. Ben, ils font pas du tout ça. En fait, ils donnent un espace. Donc, en fait, ils sont accueillis. On leur demande pas de faire du rendement. Et pendant des mois, hein, c'est qu'en fait, il y a vraiment un temps d'acculturation, de rencontrer les gens, de prendre ses marques, quoi. Donc là, c'est pas du tout performant, hein, très clairement, quoi. Mais par contre, ce tampon, cet espace qu'on a créé, donc, complètement incohérent, hein, là aussi. Hein. C'est, en fait, c'est quelqu'un qui est travaillé, qui travaille, qui est un employé et qui ne travaille pas, en fait. Mais cet espace qu'on crée, en fait, ça fait un tampon, ça crée les marges de manœuvre et après, on peut construire dessus, quoi. Et en fait, après, on peut construire la robustesse. Donc, en fait, si je dois le dire rapidement, c'est créer ce tampon à ces familles-là, en fait, leur donner les outils du tampon pour avoir plus de marge de manœuvre. Je ne sais pas si je réponds complètement à la question. Oui, ça existe déjà. Non, mais ça existe déjà, mais c'est menacé. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans le monde de l'optimisation où on essaie de lutter contre la fraude sociale, et de se dire, voilà, on va vraiment rien laisser passer, quoi. Non, il faut qu'il y ait de la fraude sociale. Un système robuste doit être robuste à la fraude. Si un système ne marche que s'il y a zéro fraude, il n'est pas robuste. Faut être lucide, quoi. On est dans un monde fluctuant, les fluctuations viennent de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc il faut qu'il y ait de la fraude, que ce soit robuste face à la fraude fiscale, à la fraude sociale. D'ailleurs, la fraude fiscale est bien supérieure à la fraude sociale, on le dit jamais. Sur la famille, en fait, la diversité des activités, ça peut être aussi une forme de robustesse. C'est-à-dire, en fait, diversité, c'est qu'on va rencontrer plus de gens, on va avoir un tissu social plus étendu et on va avoir plus de compétences, on va acquérir plus de compétences. Donc en fait, c'est une forme de robustesse joyeuse, quoi. Parce qu'en fait, on, dans une situation difficile, on veut surtout densifier et augmenter la qualité de ces interactions, quoi. Donc après, bon, il y a plein de façons de le faire, mais voilà, je le dis rapidement.
Bonjour. Sur l'électrification, un peu, parce qu'on parle beaucoup, oui, des changements, d'arrêter les véhicules qui sont très polluants, remplacés par les véhicules électriques qui sont plus performant, oui, parce qu'il y a moins de gaspillage d'énergie, tout ça. Mais aussi, on utilise beaucoup plus de matériaux. Mais quelle est votre opinion là-dessus?
Alors, la voiture électrique, hein, c'est l'exemple typique de la meilleure réponse à la mauvaise question, hein, très clairement, quoi. C'est qu'en fait, on est en train de... Quand on dit qu'on décarbone l'économie, faut bien... La sémantique est terrible, hein. Décarboner l'économie, ça veut dire qu'en fait, on est en train de remplacer le pétrole par des métaux. Le lithium, le cobalt, le cuivre et tout le bazar, quoi. Et ben, quand on fait ça, en fait, on est en train de déplacer la pollution ailleurs, quoi. Et en fait, comme tu disais, il n'y a pas de transition, hein. Donc on émet tout le temps, on consomme toujours autant de pétrole, toujours plus. Et en plus, on extrait encore plus de métaux. Les métaux, hein, vous savez, hein, on prend un caillou, on le réduit en farine, on prend 1% de métal d'intérêt, et les 99% restants, les boues à la sortie des mines, c'est plein d'arsenic, c'est plein de métaux lourds, et ça pollue. Donc en fait, on est en train de remplacer une pollution par une autre. D'ajouter une pollution par une autre. Donc en fait, le futur de la voiture, c'est pas une voiture électrique. Le futur de la voiture, c'est une voiture légère, partagée, réparable. Son moteur, c'est totalement secondaire, quoi. Un taxi dans Bruxelles, très bien si c'est électrique. Parce que ça, c'est une voiture partagée qui tourne beaucoup en ville. Bon, vaut mieux que ce soit électrique. Un camion qui traverse toute l'Europe, faut mieux qu'il soit sur un train, déjà. Mais si vraiment on est coincé et qu'il doit traverser l'Europe, faut surtout pas qu'il soit électrique. Ça n'a aucun sens. Hein. Le mieux, là, c'est un camion diesel, hein, actuellement. Enfin, c'est malheureux, mais pour l'instant, c'est le mieux qu'on ait, avec un bon pot catalytique. Ouais. Donc, c'est le fait scientifique. Il faut que les décideurs endossent le fait scientifique, quoi. Voilà. Et donc, la voiture électrique, c'est... Donc, moi, je dis souvent, hein, c'est pas décarboner l'économie qu'il faut faire, hein, il faut décombustionner l'économie. Il faut arrêter de brûler du carbone. Donc arrêter de brûler du bois, du charbon, du pétrole, des biocarburants, hein, tout ça, il faut arrêter. Mais par contre, il faut recarboner l'économie, si on réfléchit bien. C'est-à-dire qu'il faut remplacer le pétrole et les métaux par des molécules biosourcées, biodégradables. Donc on sait faire des batteries à base de bois, on sait faire des peintures avec des matériaux biosourcés. Alors, toujours pareil, hein, il y a un côté juridique. Toute cette biomasse, la première chose, cette biomasse, elle doit nourrir les services écosystémiques. Donc justement, c'est ce qui reste dans les sols, qui régénère les sols, etc., quoi. Si, ça c'est une partie. Après, la partie en plus, c'est les aliments. pour nous, les humains. Et donc, tout ce qui va rester, hein, parce qu'on a vraiment un excès énorme de biomasse, bah, c'est là-dedans qu'on va taper dans les déchets organiques, etc., pour faire les molécules biosourcées du futur qui vont remplacer le pétrole et les métaux. Le 21e siècle sera le siècle où on va basculer, on va refaire du carbone. Hein. Ça sera le siècle du carbone, quoi. Mais photosynthétique, quoi.
Merci beaucoup pour votre exposé, c'est impressionnant et inspirant. J'ai l'impression, j'interprète peut-être, hein, mais j'ai l'impression que vos conclusions positives, c'est très lié au fait que vous voyez notre espèce comme un collectif et pas du tout, peut-être à l'opposé en fait de l'individualisme du capitalisme aujourd'hui, quoi. Mais à quel point aujourd'hui on peut dire qu'on est un collectif quand on voit tous les conflits qu'il y a aujourd'hui. Enfin, je suis fondamentalement convaincue que si le Green Deal aujourd'hui il capote politiquement, c'est parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine notamment, la poudrière au Moyen-Orient sur lequel absolument tout le monde a un avis, même si on n'est pas directement dans cette région du monde. Ajouter à ça les grosses polarisations politiques qui existent, on voit sur aux États-Unis, on voit même ici, etc. Et donc à quel point en fait votre optimisme résiste à ces conflits qui sont vraiment très très profonds, quoi.
Oui, la multiplication des conflits, hein, c'est de la compétition, c'est le produit du monde de la performance. C'est le culte de la performance qui pousse au conflit. Hein. Comme je vous disais, hein, performance, compétition, violence. Et donc en fait, c'est une construction sociale finalement, socio-économique, quoi, on pourrait dire. Donc en fait, au fond, hein, si je reviens à Darwin et sa sympathie, ou même l'expérience que vous pouvez faire, on va prendre l'exemple du train. Hein, voilà, si vous êtes dans un train, un train rapide, hein, je prends un TGV en France. Vous savez, tout le monde est sur son ordinateur en silo, là, sur son bureau. Enfin, moi, pareil, hein, dans le canal, quoi. Donc là, du coup, c'est plutôt performance, quoi. Voilà, on avance sur son truc. Et puis, si le train s'arrête en pleine voie, et puis que ça dure un peu, la première chose qu'on fait, c'est commencer à parler à son voisin, quoi. Donc, en fait, on est très bien câblé, hein, pour coopérer. En fait, on le fait tout de suite, quoi. C'est instinctif, quoi. Et c'est tout à fait naturel. Quand on est dans une situation d'incertitude, on va pêcher des informations à droite, à gauche, on va commencer à coopérer. Donc, en fait, moi, j'aurais tendance à questionner plutôt l'environnement qui nous pousse à performer, finalement. À ces gourous de la performance qui, en fait, nous envoient à la guerre comme des noctambules, quoi. Hein. Ça, c'était Henri Guénaud qui disait ça. Mais bon, bref. Quelqu'un que je ne suis pas forcément, encore une fois, il faut aller, à mon avis, au cœur du problème. C'est qu'on a cette construction mentale de dire que l'homme est un loup pour l'homme. C'est une construction d'un monde où les humains ont créé une forme d'abondance. L'abondance stimule la compétition qui stimule la performance, quoi. Et donc, je ne dis pas qu'il faut faire de la pénurie pour qu'on finisse par coopérer. C'est une solution, mais qui n'est pas du tout enviable. C'est vraiment un choix politique. Se dire, maintenant... la robustesse d'abord.
C'est pour ça aussi que, on parle souvent de la diversité. C'est le point que j'ai cité quand j'ai commencé à parler en disant je n'aurais pas dû être là. Cette diversité est aussi essentielle justement à ce changement. Bon, pour avoir fait une grande école de commerce, où effectivement, quand on a commencé, on nous disait vous regardez devant vous, regardez à côté, regardez de l'autre côté, regardez derrière. Sur les cinq, il y en a un qui va réussir. C'était cette culture de la performance, de la compétitivité. Et du fait qu'aujourd'hui, ce sont ces décideurs-là qui sont aux commandes. Donc c'est comment on peut amener aussi de la diversité dans les organes décisionnels pour changer un peu de logiciel.
Est-ce qu'on a le temps pour ce que vous proposez ?
Quand on n'a pas le temps, il faut se reconnecter à l'espace. C'est parce que, ouais. En fait, vu qu'on n'a pas le temps, je suis d'accord, on n'a pas le temps. Hein. Donc l'urgence, c'est de se reconnecter à l'espace. Et donc en fait, très souvent, en fait, quand on est dans une forme d'impasse temporelle, on densifie ces interactions. Les êtres vivants font pareil. Hein. En fait, dès qu'il y a une situation de pénurie, une situation de crise, on multiplie les interactions. Donc ça, c'est instantané. Et la densité des interactions fait qu'on multiplie l'hétérogénéité des partenaires et on va trouver des tas de chemins instantanés, si on veut, qui vont nous permettre de trouver des solutions. Donc là, c'est très théorique. Mais en fait, c'est exactement comme ça que fonctionnent les symbioses. Les symbioses, c'est quelque chose qu'on n'attend pas 100 ans avant qu'une symbiose arrive, quoi. En fait, c'est en multipliant les interactions qu'on permet de répondre au court terme, en tout cas à la question de l'urgence, quoi. Et donc, en fait, faut pas oublier cette carte. C'est qu'en fait, si on reste sur l'angle temporel, en fait, on va se dire, oui, mais là, c'est vraiment très urgent, c'est dans les 5 ans, dans les 10 ans qu'il faut que ça se développe. Et bien, en fait, c'est en multipliant les interactions qu'on va, en fait, contourner le problème du temps, en fait. Bon, je le dis avec un peu d'optimisme, hein. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de casse, hein. Il y aura de la casse, mais c'est grâce aux interactions. Ben, pour vous donner un exemple tout simple, hein. La sécurité, dans le monde de la robustesse, c'est le tissu social. S'il y a un méga feu dans votre entourage, c'est, si vous avez été dans un club de lecture ou dans une association de tennis ou je ne sais pas quoi, il y a quelqu'un qui va penser à vous et qui va venir vous chercher, quoi. Ça, c'est de la sécurité au sens de la robustesse, parce que vous avez plein d'interactions avec vos voisins. Si vous êtes tout seul avec votre barrière et vos caméras augmentées, super performantes, il n'y a personne qui va venir vous chercher, hein. Et ça va vraiment vous servir à rien, quoi.
Voilà. Voilà. Je crois que c'est un bon mot de la fin, parce que les interactions, elles sont là, et elles vont pouvoir continuer après. Mais je tenais à vous remercier, en tout cas, pour votre présence ce soir à l'ULB, et évidemment, remercier aussi Utopia, Arnaud, et te remercier aussi, Olivier, pour ta présence, et une longue série de conférences ces deux derniers jours. Bienvenue en Belgique, en tout cas, et vivement de te revoir bientôt. Voilà, merci, à bientôt, et voilà, à la prochaine.
Les échanges étaient animés par Thibault Georgin, entrepreneur, conseiller et ancien président du CA de la SNCB. Robustesse ou performance, s'inspirer du vivant pour une troisième voie de management. C'était une conférence donnée par Olivier Hamant pour les 20 ans d'Etopia, le centre d'animation et de recherche en écologie politique. Retrouvez cet enregistrement sur le site etopia.be, mais aussi sur lapsusaloreilletoutlié.be.